Il peut aussi co-composer le rappeur. Le rappeur, s'il s'est posé à côté de son beatmaker et qu'il lui a dit « voilà, je veux une prod comme ça, je veux tel type de drums, de batterie, je veux telle guitare, ah, il y a une mélo que j'ai un petit peu dans la tête, est-ce que tu peux la reproduire ?» Il a tout à fait le droit d'avoir également des points dans la composition.
Alors, mais comment comment tu prouves ça, en fait? Comment
C'est
là que les éditeurs, ils ont intérêt de rester au studio.
Monte le son, c'est le podcast des passionnés de musique. Bienvenue à tous. Ça va Daz?
Ça va et toi Salman, la pêche?
Écoute, ça va très bien. Je suis très content de qu'on se retrouve pour un nouvel épisode.
Eh oui, le
105 émissions. Je sais pas si vous vous rendez compte, je m'adresse à nos invités, Andy, Valou, Leila. Ça va?
Ça fait beaucoup d'heures.
Ça fait beaucoup d'heures. Effectivement, beaucoup d'heures.
105 fois 2 heures à peu près.
Oh, tu sais qu'il y a eu les Wrapped là récemment, tu sais, des gens qui mettent ce qu'ils ont écouté et tout sur les plateformes. Il y a des gens donc qui ont mis que c'était leur podcast favori, enfin celui qui avait le plus d'écoute et tout sur l'année. Et il y en avait un en particulier qui avait un nombre de minutes écoutées. Tu sais, ça, c'était genre il a écouté plus que chaque épisode intégralement.
Ah,
tu vois, il a écouté même des anciens épisodes et tout, tu vois, sur
plusieurs
l'année.
Plusieurs fois
et tout.
Et tout. Ouais,
impressionnant.
Ça, c'est bien.
Donc merci à tous ceux qui nous ont
mis. Merci le public, merci la commu.
Merci la commu. Ça c'est le côté streamer. Okay. Merci
ouais, ça revient. Hein,
est-ce qu'il y a un nom commu même?
Ah, c'est vrai qu'il y a pas trop. Toi chez toi parce que Daz est streamer aussi sur Twitch et tout. On dit les Dazos. Hein,
les Dazos. Ouais, globalement les branleurs aussi.
Les branleurs. chez MLH, chez Monte-le-Son, ce serait quoi les?
Bah, quand on allait dans le tempo, c'était plus simple, c'était les dans le tempos, les dans le tempos.
Ah ouais.
Mais okay. Là, ouais, les Thomanes.
Les Thomos.
Les
Thomanos. Je ne sais pas, mais Thomanes
Il faut qu'on trouve un nom de commu, effectivement, c'est engageant, c'est bien pour l'avenir. Et alors, en parlant d'engageant.
Oui.
Aucun rapport, mais c'est une transition journalistique. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Salman? Je me demande, le public se demande.
Eh bien, figure-toi que nous allons parler de la filière, de l'industrie musicale, de son organisation notamment.
Ah, une émission business.
Ouais,
ah,
parce que le métier, on le dit souvent dans cette émission, ce qui nous intéresse, il peut y avoir les aspects économiques, t'as raison, mais c'est globalement rappeler que quand on fait de la musique, souvent c'est des métiers.
Ouais.
Plein de métiers d'ailleurs qui entourent la musique. Et on a convié avec nous des gens qui connaissent bien toutes les structures qui accompagnent ces métiers de la musique. Je commence avec la clique Fédérap. Fédérap. Ils vont nous expliquer d'ailleurs, Valou, Leila. Donc Valou, Anne-Valérie Atlan, tu es t'es l'une des figures du rap en France quand même. T'es là depuis quelques temps. T'as commencé avec le crew IZB. Vous êtes parmi les premiers en France à avoir organisé des concerts de rap.
Exactement. IZB qui fête ses 40 ans demain d'ailleurs.
Ouais.
Wow.
Ah ouais.
Ah le timing.
Ans.
Happy birthday.
Ouais, grosse soirée privée dans Paris. Mais oui, effectivement. Alors si on commence par moi, c'est ça?
Ouais. Okay. On se présente rapidement chacun.
Oui, on va dire que je suis une des femmes pionnières en France. Évidemment pas la première. Hein. Il y en a eu quelques-unes avant moi. Je fais un gros big up à Laurence Twitou. Et ainsi qu'un gros big up à Africa Loukoum aussi, qui était là bien évidemment avant moi. Effectivement, j'ai commencé avec le crew IZB, ou le Posse IZB, qui était à l'époque une association, puisqu'on est là pour parler de structure et de business de la musique. C'était une des toutes premières associations, loi 1901, dans la musique, qui a but non lucratif bien sûr, et qui était là pour promouvoir la culture hip-hop, puisqu'on parlait encore de hip-hop à cette époque-là.
Ça remonte.
On est dans les années 80, exactement en 1987. Et effectivement, les deux créateurs, donc Jean-Marie Gopé et Angelo Gopé d'IZB, ont créé l'association IZB pour promouvoir cette fameuse culture hip-hop, c'est-à-dire organiser tout un tas d'événements. Ça a commencé par des soirées et ensuite des concerts, donc de rap américain, mais où il y avait un peu déjà de rap français, puisque souvent les premières parties étaient du rap français.
À l'époque, on est au milieu fin 80, des années 80, tu peux des gens que tu as fait venir par exemple des États-Unis.
Bien sûr. Alors le tout premier concert qu'on a fait à l'Élysée-Montmartre, qui s'appelait Rap sans frontières, pourquoi? Parce qu'il y avait des rappeurs américains, des rappeurs européens, donc anglais, et des rappeurs français. Dans les américains, il y avait Ultra Magnetic MCs, donc on est sur la côte Est. Mmh. Il y avait Lakim Shabazz, qui était un rappeur assez militant afro-centriste américain, donc ultramagnétique, Lakim Shabazz. Et en anglais, il y avait MC Freshski, c'est un rappeur anglais, bon, qui n'a pas forcément duré. Et puis en rappeur français, il y avait les Nec Plus Ultra et d'autres artistes. Ensuite, on a fait venir Public Enemy au Zénith de Paris. On a fait des concerts comme Bobby Brown au Palais des Sports, comme Alia à l'Élysée Montmartre, comme Ice Cube and the Lynch Mob, comme Gangstar, comme Dream Warriors, comme énormément d'artistes, Big Daddy Kane. C'était vraiment les gros artistes américains de l'époque. Donc on est fin des années 80, début des années 90. C'est vraiment les artistes qui marquent l'époque. Et nous, avec IZB, on était là justement pour... On a fait vraiment les tout premiers concerts. On a pu vraiment apporter, se targuer d'avoir apporté la culture rap en France. On faisait pas que de la production de concerts, on organisait aussi des voyages de jeunes pour les emmener soit en Angleterre, soit aux États-Unis, découvrir ce qu'était le rap, la Zulu Nation, Afrika Bambaataa. On allait chaque année à l'anniversaire de la Zulu Nation au mois de novembre. Enfin voilà, c'était une époque où je dis toujours ça étonne beaucoup, où toutes les personnes qui écoutaient du rap se connaissaient.
Ce qui est un peu plus difficile aujourd'hui.
Voilà, on va dire ça.
Bon, c'est de toute façon œuvrer pour cette culture, pour la musique, c'est un truc que tu vas faire toute ta vie jusqu'à aujourd'hui, parce que tu vas ensuite avoir une carrière dans les médias, Radical, RAP, RER, l'affiche. Bon, tu vas interviewer plein de gens, de Snoop Dogg, Jay-Z, Beyoncé. Bon, tu vas croiser beaucoup de gens.
Est-ce qu'on peut utiliser le terme de OG? Pour qualifier Valou et sa carrière.
Moi, ça me va. Je suis une original gangsta.
Voilà.
De toute façon, à partir du moment où t'as pu interviewer et côtoyer Ice Cube, Dr. Dre, je pense que oui.
C'est mérité.
Qualifié de OG. effectivement. Le but de ma vie a toujours été de transmettre. Voilà. Le mot important, c'est la transmission que je continue à faire aujourd'hui. Transmettre cette culture. Donc, déjà, quand j'organise avec IZB, on transmet la culture. Quand j'interview des artistes, je transmets la vie de ces artistes au public à travers la presse papier. Quand je monte ma structure pour justement organiser d'autres concerts, faire du clip, c'est toujours de la transmission de la vie des artistes. Donc oui, on va dire que c'est dans mon ADN, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec Federap, qui a été donc créé par... une idée originale comme dans les films de Leïla. Federap a pour but aussi de transmettre le savoir-faire, la structuration pour les artistes, mais aussi les producteurs, tout ce savoir-faire et cette structuration dont beaucoup d'artistes et de producteurs et de managers indépendants ont grand besoin. Parce qu'effectivement, la musique, c'est pas ce qu'on voit, c'est pas... Les gens de l'extérieur ont l'impression que ce n'est pas un métier. Tu parlais tout à l'heure, c'est une vraie industrie avec de vrais métiers qui ont chacun des fiches de métiers bien précises. Et c'est très important que les artistes, managers, producteurs qui se lancent le sachent et aient une fédération comme Federap à laquelle se référer pour pouvoir apprendre ces différents métiers.
Oui, parce que tu parles de Federap, mais il faut dire que on a parlé du fait que t'as organisé très vite des concerts, des choses comme ça, dans les médias et tout. Puis après, en fait, t'as monté aussi tes propres structures où t'as produit, managé. Enfin, tu le fais encore d'ailleurs. Tu bookes aussi et toujours, etc. Et puis effectivement, Federap dont tu parlais sur une idée donc de Leïla, et Leïla, on va te présenter ensuite. En fait, vous êtes dit tout simplement, on va rassembler les professionnels du monde du rap de façon justement à ce qu'ils soient plus forts ensemble, à ce qu'ils soient bien représentés dans l'institution, à ce qu'ils dialoguent, etc. C'était ça un peu l'idée, Leïla.
C'est exactement ça. Ouais. C'est en fait, dans la musique aujourd'hui, il y a beaucoup de... Déjà, il y a des intérêts. La musique, c'est très politique aujourd'hui, parce qu'on vit dans un pays quand même où il y a l'État qui intervient vachement dans les politiques culturelles, et donc il y a de l'argent public qui investit dans la musique, etc. Et c'est une chance, hein, parce que je pense qu'on est un des pays dans le monde où c'est le plus développé. Du coup, il y a un gâteau à se partager, mais du coup, tout le monde a envie d'avoir sa part du gâteau. Et donc... Et donc il faut revendiquer cette part. Et comment ça marche aujourd'hui, c'est il existe des fédérations et des syndicats qui défendent des intérêts, des métiers, des personnes. Et il y a beaucoup de fédérations, beaucoup de syndicats pour plein de choses différentes dans la musique, mais il n'y avait aucun endroit où les acteurs du rap étaient représentés et se réunissaient. Ce qui est de plus en plus problématique quand t'es le genre musical numéro 1, la plus grosse part de marché, que t'es aussi... Enfin, que le rap était aussi peut-être un peu discriminé dans certains endroits politiques, etc. Donc, Donc pour pallier à cela, la meilleure idée, c'était peut-être de créer une fédération. Donc c'est pour ça que nous avons créé Fédérap il y a 2 ans maintenant.
Okay. Toutes les deux, vous connaissez bien les institutions, Valou et toi, Leïla. Bah, Valou, parce qu'en plus, toi, tu es aussi commissaire à la SACEM. Donc tu,
Alors moi, j'y suis venue très tardivement aux institutions. Ouais. Justement, j'en parlais récemment avec un artiste de rap de l'époque des années 90. Et c'est vrai que notre génération, justement, n'était pas du tout sensibilisée à tout ça, contrairement à la génération de Leïla. Nous, on a évolué dans tout ce milieu-là sans savoir qu'il y avait des institutions, qu'il y avait des fédérations, qu'il y avait des organismes pour collecter l'argent, nous le rendre, des subventions, etc., etc. Et donc, moi, j'y suis venue très, très, très tardivement par rapport à ma carrière qui a commencé donc en 88. J'y suis venue vraiment il y a peut-être 4-5 ans.
Ah ouais?
Ah ouais, c'est très très tard à vraiment comprendre, même si, alors, j'ai monté mon label il y a une dizaine d'années, tout de suite, bien sûr, je me suis quand même un minimum renseignée, je me suis inscrite à la SCPP, j'avais le choix entre SCPP et SPPF, bon, je me suis inscrite à la SCPP, mais sans vraiment comprendre, c'est ça que je vais vous expliquer, sans vraiment comprendre ce que je faisais, ce qu'était exactement cette société civile des producteurs phonographiques, et c'est pour ça que je m'y suis, même moi, je m'y suis... comment on dit, pas intéressé, mais
investi,
voilà, je m'y suis investie très tardivement. Ok, j'étais inscrite, mais il n'y a que 4-5 ans que j'ai compris les intérêts qu'on avait tous et comment fonctionnaient les institutions, contrairement à Leïla qui, très jeune, ayant travaillé au CNM, a baigné dedans. Donc tu t'imagines toute une carrière de 30 ans sans savoir. Nous, on a toujours, avec mon associé Michel, on a toujours travaillé avec nos fonds propres. Personne nous a dit, mais attendez, vous produisez un artiste, un clip, vous savez que vous pouvez récupérer des subventions. Parce que c'est une époque où quand les gens le savaient, ils ne le disaient pas aux autres.
Ouais.
Ils en profitaient tout
seul. C'est la fameuse part du gâteau à se partager. Bah ouais. Plus on est nombreux à se partager, moins on en a. Quoi.
C'est la fameuse part du gâteau. Et c'est très... Aujourd'hui, on est dans une génération qui sait ça, qui sait qu'il y a des subventions, qu'elles viennent de la SCPP, qu'elles viennent de la SACEM, de plein d'autres organismes. Mais... Moi, j'ai vécu, tu sais, je marchais avec ma petite barque, où sans savoir, avec les fonds propres. Donc, ça a toujours été très dur. En tout cas, plus dur qu'aujourd'hui, où on a des aides et où on le sait. Mais ces aides étaient là déjà. Mais c'est pas nous qui en profitions. C'était peut-être d'autres esthétiques musicales. L'esthétique rap a été, je pense, une des dernières esthétiques à comprendre qu'on pouvait profiter de ces aides pour produire de la musique.
Tu évoquais le fait que Leïla a travaillé au CNM, donc qui est le Centre National de la Musique, ce qui explique effectivement que tu connais bien les institutions. Et puis tu travailles aussi en parallèle pour la scène indépendante, si je ne dis pas de bêtises, qui est le Syndicat National des Entrepreneurs de Spectacle. Et bon, il faut que je présente quand même aussi le troisième invité, qui est Andy Banami. Ça va, Andy?
Bonjour, bonsoir à tous.
Désolé, on a pris un peu de temps, mais une carrière comme Valou, déjà, tu vois, là, on l'a résumé en quelques minutes.
Très bien.
Parle bien devant ton micro, Andy.
Yes. J'ai pas l'habitude, d'ailleurs, je suis plus derrière les consoles, mais.
Mais oui. Voilà. Mais oui, parce que toi, Andy, tu as monté il y a près de 10 ans un label qui s'appelle Rebel's Mind, avec lequel tu développes, enregistres, structures des artistes indépendants, enfin, émergents surtout. Et la particularité, c'est que tu fais ça en Guyane. Puisque tu es en métropole en ce moment, mais tu vis en Guyane. Et tu cherches, en fait, à mettre en avant, la musique guyanaise, les artistes, et notamment aussi l'aspect plus institutionnel, puisque tu es derrière Chewing Gum, qui est une agence administrative. Et en gros, en fait, l'idée, c'est les acteurs de la musique en Guyane, leur apporter une aide dans les démarches administratives, juridiques, etc.
Totalement. Et comme le disait Valou, c'est que, même d'abord, leur apprendre la pédagogie de se renseigner, avant même de leur donner les clés. Moi, je pense qu'on doit surtout leur expliquer le pourquoi de c'est important. Sinon, en fait, on va juste prendre des aides pour prendre des aides, mais dans le process et dans comment on va produire de la musique, en fait, on va louper certaines cases, un chemin qu'on aurait pu emprunter, un crédit d'impôt qu'on aurait pu anticiper bien plus tôt. Donc oui, c'est vrai que se structurer, et on a la chance aujourd'hui d'avoir des outils qui évoluent. Parce qu'à l'époque de Valou, je pense, comme elle le dit, si t'es pas en contact avec quelqu'un qui va te donner le conseil ou la sub, attention, dans 10 jours, la sub, elle va sauter, tu peux déposer un dossier. En fait, t'es livré à toi-même et tu dois vraiment sortir des fonds propres. Et c'est pour ça, l'esthétique rap, je pense, elle en souffre, elle en a souffert longtemps, qui fait qu'aujourd'hui, l'industrie musicale française le voit en pleine face, que le rap s'est structuré déjà très très tôt, et qu'aujourd'hui, ben, ils ont les outils. Ils ont les outils, et on voit très bien que les plus déterminés, c'est eux qui réussissent, qu'on vienne de banlieue, d'une résidence ou autre. Moi, je pense qu'il n'y a plus cet aspect les banlieusards ou la capitale ou même au côté province. Parce que moi, je viens de la Guyane, donc c'est encore un autre schéma, les Outre-mer. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment les clés et les outils pour aller à l'information et avec tous les supports que Internet propose, dont monte le son. je pense qu'aujourd'hui, ils n'ont plus d'excuses. Et c'est là où moi, je veux vraiment être un peu plus dur. On ne peut pas sauver tout le monde. On peut pas sauver tout le monde, ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu me montes pas un certain intérêt, je vais pas passer des heures à tout expliquer.
Ouais, mais alors, moi j'ai une question là-dessus, c'est à quel moment dans le processus de développement d'un artiste, il faut avoir ce truc-là en tête ? Parce que quand tu commences dans la musique, généralement c'est parce que t'as envie d'en faire, t'as envie d'en vivre, et tu te lances et t'as envie de créer, tu vois. Et je sais que en plus généralement les artistes rap notamment sont jeunes, démarrent très très jeunes, donc en fait toutes ces notions de prévoir l'avenir, préparer les choses, essayer de faire ça proprement, c'est vrai que très souvent c'est un truc qui passe en deuxième, troisième priorité, tu vois.
C'est vrai ce que tu dis, c'est intéressant, mais aujourd'hui, enfin je vais prendre mon cas, je suis de 92. À l'époque, moi, j'ai découvert Rof, Booba, Lafouine. Moi, je connaissais pas Talak Records. Je connaissais pas les noms de la label.
Phénomène Records.
Voilà. Enfin, on retenait le nom de l'artiste et le nom de l'album. Aujourd'hui, les gamins, ils connaissent le compositeur, l'arrangeur, l'éditeur, le distributeur et le label. Donc, on est vraiment. Je pourrais répondre à ta question. Moi, aujourd'hui, j'ai vraiment aucune état d'âme. C'est que tu veux faire de la musique. C'est comme un sportif. Tu veux faire de l'athlétisme, tous les matins à 6h, va t'entraîner. Si j'ai pas ça, si j'ai pas cette vision sur un artiste, je vais pas l'accompagner. Parce que c'est pas parce que tu vas à l'entraînement à 16h, 17h, que tu coches les cases banales, normales, que ça va faire de toi un artiste vraiment exceptionnel, tu vois.
Est-ce qu'il y a pas aussi un défaut de compréhension de ce que c'est un label? Par exemple, je sais que moi, les artistes, souvent, ils arrivent et ils ont tout de suite un label. Enfin, tu vois, ils mettent en avant un label, mais ils savent même pas ce que ça implique. Pour eux, c'est juste un nom, c'est genre une équipe, tu vois. Mais il n'y a pas forcément toute la structuration qui est sous-jacente avec la notion de label.
C'est un peu comme une marque, en fait.
Ouais, c'est ça. En fait, ils disent, ouais, c'est mon label, mais en fait, il n'y a rien. Tu
vois. C'est surtout souvent l'opportunité pour ces artistes d'avoir un lieu où ils peuvent enregistrer, d'être accompagnés, du matériel, etc.
Non, j'entends, mais je sais, par exemple, si on prend les artistes américains, il y avait plein de labels qu'on appelait des vanity labels, je crois, où, en fait, ils étaient adossés à des maisons de disques et c'était même pas une vraie structure en tant que telle. Le label de Warren G, G-Fonkera, etc. Tu sais, c'était des ersatz de major, genre Interscope.
Ouais, c'est ça, c'est des sous-labels qui sont finalement alimentés financièrement par la major.
Ouais.
Mais on a toujours ça aujourd'hui dans les maisons de disques. Tu as énormément de labels d'artistes qui sont hébergés dans des grosses majors.
Comme Capitol. Capitol qui a signé plein de labels indépendants.
Voilà, comme le label du producteur de Dino, Soumar. Il a son label Spectacular, qui est donc chez Universal, qui est hébergé par Universal.
Donc c'est parce que quand les gens mettent en avant un label, c'est synonyme d'indépendance par rapport à l'écosystème des majors.
Pas forcément. T'as label indépendant et t'as Capitol est un label. Mais Capitol est un label qui fait partie d'une major. Donc c'est pas un label indépendant. Et aujourd'hui, il y a très peu de labels totalement indépendants. Par exemple, comme le mien ou celui d'Andy. Donc moi, mon label Black Gold. Ton label, Andy?
Rebel Minds.
On est vraiment indépendant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas
de major derrière.
Il n'y a pas de financement qui vient d'une major, d'une maison de disques. Ça veut dire qu'on va faire certains deals ponctuels, c'est le mot que je cherchais, ponctuels sur des artistes, par exemple, où on va avoir un deal, où on va peut-être avoir un petit peu, on va récupérer un petit peu d'argent, une avance, sur un deal de distribution ou un deal de licence, avec une major, mais ce deal, il est toujours, l'argent vient financer un label indépendant qui va le dépenser comme il le veut et comme il le souhaite. Et c'est d'ailleurs le schéma le plus pratiqué aujourd'hui. La plupart des labels indépendants ne cherche qu'une distribution, c'est-à-dire récupérer une certaine somme d'un distributeur qui va être un distributeur comme Believe ou comme Because ou comme Sony Universal, mais va pouvoir gérer l'argent, donc la ce qu'on appelle la production exécutive, comme il l'entend.
D'accord, donc
et
sans
comme
aucun...
il l'entend, c'est-à-dire ce qui est le plus problématique. On adore les majors, hein, on n'est pas du tout là pour taper sur les majors, mais le plus problématique, et ils le savent, je m'entends très bien avec beaucoup de directeurs de majors, et c'est les discussions qu'on a régulièrement. Ce que je trouve problématique chez les majors, c'est la longueur des process. Ils ont des process qui sont très longs. Pourquoi ? Parce qu'ils ont énormément de gens à qui il faut reporter à chaque fois. Il y a le directeur du label, il y a le président, mais il y a aussi les investisseurs. Donc, à chaque fois qu'il y a un move qui doit être fait, admettons, on doit clipper ou on doit... Oh là là, il faut attendre des mois et des mois. Sauf que le temps que tu as attendu ce process-là, le titre, il n'est plus dans l'actu. Donc en fait, aujourd'hui, c'est une question de moment. Aujourd'hui, une bonne stratégie pour développer un artiste, c'est faire les choses au bon moment. Au bon moment, c'est quand on sent qu'il y a le buzz adéquat sur les réseaux et qu'il faut balancer les choses. Le problème des majors...
Mais c'est l'inertie en fait.
Je sais que je fais beaucoup de consulting aussi au sein de ma boîte. Je fais du consulting pour les artistes, mais également pour les producteurs. Et j'ai toujours le même cas de figure qui revient, c'est on est en major, mais ça met tellement de temps à chaque fois qu'on veut faire quelque chose que le produit, le projet finalement ne prend pas parce qu'ils mettent trop de temps. Moi, c'est vraiment ce qui me revient. Ils mettent beaucoup trop de temps à faire les choses, lancer des campagnes, lancer des singles, lancer de la promo, lancer du clip. Tout est tellement long à cause des process que finalement, s'en sortent mieux les artistes en indé. Je rappelle que Théodora est en indé. Et parce qu'ils ont, même s'il y a Virgin qui est quand même derrière et qui distribue, mais ils ont en tout cas les pleins pouvoirs pour demain. Théodora, elle fait un titre en studio, elle veut sortir son titre dans 4 jours sur les plateformes, elle peut. En major,
tu ne
peux pas. Ah non.
C'est vrai que j'aimerais revenir sur ce que Valo disait. Au-delà même des prises de décision, ils sont pas bêtes. Hein. Ils vont attendre les subs, ils vont attendre des dates pour faire rentrer de l'argent et ensuite débloquer les sous pour faire le clip. On a des cas comme ça où à la SCPP ou dans d'autres organismes, ben, y a des aides pour le clip, pour l'audiovisuel. Le producteur, il va pas sortir des sous de sa poche. Il va attendre la date de la subvention pour déposer les dépôts, les dates de dépôt. Et c'est de là que là, l'argent va tomber. Il va te dire, c'est bon, j'ai l'argent pour ton clip. En fait, t'as l'argent de la subvention pour le clip. Donc c'est vrai que, et juste pour reconstitutionnaliser un peu les choses, en major et maison de disque, c'est la même chose. Lorsqu'on parle d'une major ou d'une maison de disque, c'est que dans cette maison, ils peuvent tout faire. Production, diffusion, promotion, jusque dans les bacs, comme on dit à l'époque, ton CD dans les bacs. Donc en fait, la maison de disques est capable de faire toute la chaîne d'un artiste à la scène. Les labels indépendants, souvent, ils vont chercher des deals avec l'intervenant acteurs, voilà, l'acteur qui l'intéresse. Si aujourd'hui, il a vraiment besoin de développer sur l'année une scène booking dans le spectacle vivant, il va s'entourer d'une équipe qui a des agences, qui est en contact avec les salles, séduire un producteur avec ton projet. Et là, tu peux fonctionner. La maison de disque n'est pas forcément la solution finale, au contraire. Mais il faut connaître les rouages. Si tu veux signer en artiste, avant, j'avais un peu du mal, mais c'est pas si mauvais, au fait, de signer en artiste.
Ouais, parce que le contrat d'artiste, c'est l'enchaînement à la maison de disque. Et qu'en fait, t'as aucune latitude, aucune indépendance, aucun...
Bah, on va dire, l'effet un peu... Chris Corleone qui dit « j'ai mes droits, j'ai mes masters » a un peu foutu le bordel partout. Parce qu'au final...
Il a pas dit que ça...
Voilà, pour dire que ça aujourd'hui. C'est vrai que quand il a dit cette phrase, ça fait vraiment un effet boule de neige où tout le monde cherchait à avoir ses masters, ses droits, mais sans vraiment comprendre.
Même avant, il y avait eu l'effet de Joule, PNL, qui ont été parmi les premiers avec ce genre de deal. Ouais.
Donc le côté indépendant... a été un peu, moi je pense, mal véhiculé. Et au final, ça a créé un côté où je bosse seul, je bosse avec personne, je suis indépendant. Mais c'est pas ça l'indépendance. Pour moi, l'indépendance, c'est que tu as tes masters. Tu es indépendant au niveau de comment tes droits vont te revenir. Mais la musique, on en parlait aussi avec Leïla, ben, demain tu veux faire un concert, il te faut un chef-op, il te faut de la lumière, il te faut un ingé son. En fait, tu peux être.
Donc la notion d'indépendance, c'est vraiment
t'es propriétaire de tes bandes. Je sais pas si vous voyez.
Mais si je dis pas de bêtises, dans le cadre d'un contrat d'artiste, c'est le label, le producteur qui lui a les bandes en l'occurrence.
C'est ça. Mais moi je pense que c'est pas si mauvais que ça, parce que quand tu as un artiste en développement, mais la maison de disques qui va te signer en contrat d'artiste, elle a intérêt de faire de la com sur toi. Elle a intérêt de faire du marketing sur toi. Elle va récupérer une part beaucoup plus importante que le risque.
Ça, c'est dans un monde idéal, mais on compte même plus le nombre d'artistes signés en major qui ont été laissés de côté.
Pour moi, ça dépend du contrat, parce que en distrib, eux, par contre, ils ont rien à faire de ta stratégie. Ils ont rien à faire de savoir quel influenceur tu vas contacter. Tu cherches une distrib. C'est à toi et ton équipe de mettre en place toutes les stratégies nécessaires pour qu'il y ait un succès. Alors qu'en contrat d'artiste, c'est l'inverse. Ils sont obligés de mettre tous les moyens en place pour récupérer de l'argent alors qu'ils ont misé sur toi.
Mais parfois, ils ne le font pas, je t'assure. J'ai des retours d'artistes. De Baldeneg avait à l'époque un classique qui s'appelait La magie du tiroir.
Bien sûr.
Il parlait déjà de ça. La magie du tiroir, c'était
le tiroir
dans lequel la maison de disque te mettait une fois qu'elle t'avait signé. C'est-à-dire qu'elle te mettait dans le tiroir et elle ne travaillait plus sur toi pour travailler sur d'autres artistes qui peut-être rapportaient plus, effectivement. Et c'était ça, la magie du tiroir. Ça existe toujours. Il est certain que les maisons de disques ont besoin d'avoir aujourd'hui ce qu'on appelle des parts de marché. Donc, c'est toujours la même depuis 30 ans. Elles signent énormément d'artistes pour avoir beaucoup de parts de marché. Mais
après,
effectivement,
rien,
est-ce qu'elles travaillent 100% des artistes qu'elles signent? C'est une autre histoire.
Ce qu'on va faire, Andy, c'est que... Parce que on a fait quelques épisodes où on explique un peu quand même l'écosystème de la musique, c'est-à-dire qu'il faut, par exemple, les éditeurs ne sont pas les producteurs, les différents types de contrats, etc., contrat de licence, contrat d'artiste, contrat de distribution, c'est des choses qu'on a déjà abordées, donc peut-être qu'on peut renvoyer les auditeurs à écouter ces épisodes-là. Ce que je veux dire, c'est que j'aimerais bien qu'on parle des structures, en fait, parce que ça, c'est un truc qu'on n'a jamais fait vraiment dans l'émission.
Ouais.
Et peut-être qu'on peut partir, Leïla, peut-être qu'on peut partir avec toi là-dessus, c'est cette idée que... Donc oui, il y a plein de métiers. Effectivement, il y a des labels indépendants, il y a des gros indépendants. Tu citais Bicos par exemple, c'est un très gros indépendant. Il y a des tout petits labels aussi qui sont indépendants. T'as des majors, etc.
Ça, Play2 okay. aussi. Play2 est un très gros indépendant.
Absolument, avec TF1 derrière, des choses comme ça.
Donc on peut. Alors on est bien d'accord qu'on peut parler d'indépendance quand derrière toi.
Cette définition d'indépendance.
Voilà, t'as le groupe Bouygues. En fait. Alors. C'est quoi l'indépendance au final, parce que
on l'a dit tout à l'heure, je dis Play2 parce que oui, ils se revendiquent comme label indépendant, mais effectivement, ils ont quand même de gros partenaires financiers derrière. Mais quand ils disent indépendant, ça veut dire qu'ils n'appartiennent pas à l'une des trois grosses majors qui sont aujourd'hui Universal, Warner et Sony. C'est d'accord. Simplement ça. Mais maintenant, un label indépendant, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça va être le mien, celui d'Andy ou d'autres artistes qui... d'autres producteurs ou artistes qui ont... Maintenant, beaucoup d'artistes ont leur label. Hein.
Ouais.
C'est la grande mode. Ils viennent d'ailleurs beaucoup me voir pour ça. Valou, est-ce que tu peux monter mon label? Est-ce que tu peux monter ma boîte d'édition? Puisque je fais des formations pour ça et je monte les structures. Je suis entourée d'une équipe d'avocats et de juristes et de fiscalistes pour ça. Je le fais beaucoup. Effectivement, oui, un vrai label indépendant est un label qui n'a pas de financement identifié de grosses marques ou de gros partenaires.
Je précise d'ailleurs que les épisodes, si ça intéresse les gens, on avait fait un épisode avec les gens du Fer, avec les gens de FGO Barbara, justement sur l'accompagnement de jeunes artistes, etc., et les structures qui existent. Voilà, donc on peut, ça, problème, c'est... Mais moi, ce que je voulais demander à Leïla, c'est est-ce que en France, tu es un professionnel de la musique? Il y a des gens que tu dois absolument aller voir, des institutions, des structures qui existent. Est-ce qu'elles sont publiques, est-ce qu'elles sont privées parfois, je ne sais pas. Et genre quelques essentiels où tu commences à faire de la musique de manière professionnelle, il faut aller taper à leur porte.
Déjà, je pense que c'est important de parler des organismes de gestion collective, surtout si on s'adresse aux artistes qui commencent à faire de la musique. Et il faut aussi faire la distinction entre les droits d'auteur et les droits voisins, parce que donc les organismes de gestion collective collectent les droits qui soient d'auteur ou voisins pour les répartir ensuite en fonction de la diffusion de la musique, en fonction de comment l'utiliser, etc. Donc pour les artistes auteurs, compositeurs, il y a la SACEM. Mais Valou, peut-être que t'en parleras mieux que moi, vu que...
Commissaire.
Oui, mais continue.
Pleinement investi.
Pour lister toutes les organismes.
Ensuite, pour les artistes interprètes, il y a l'Aspedidam et l'Adami, qui du coup gèrent les droits voisins des artistes interprètes, parce qu'à chaque fois que un morceau sur lequel on a chanté passe quelque part, bah, ça génère des droits parce que, bah, en fait, notre voix, c'est notre outil de travail. Donc, c'est normal qu'on soit rémunéré pour avoir posé notre voix ou notre instrument.
Donc, si j'explicite, pour ceux qui connaissent un peu moins bien ça, on sépare vraiment l'interprète et l'auteur. Donc, l'auteur, c'est la SACEM, c'est-à-dire qu'il a des droits sur la composition, donc qu'il dépose. Et par contre, les gens qui interprètent, si c'est pas l'auteur directement, ce qui arrive, eux aussi ont des droits sur l'enregistrement lui-même et le fait que leur voix est utilisée, c'est
Effectivement,
ça?
Effectivement, ouais.
Okay. C'est-à-dire que les interprètes, c'est pas la SACEM?
Non.
Non. Non.
Eh ben, tu vois, on apprend tous les jours.
Tu peux très bien écrire un texte pour moi.
Ouais.
Donc, tu es l'auteur du texte.
Ouais. Et moi, je suis à la SACEM.
Tu es à la SACEM. Moi, je l'interprète. Je suis à la DAMI.
D'accord.
Okay. Mais Andy, en l'interprétant, ne récupérera aucun droit de la SACEM. Il faut le savoir.
C'est-à-dire que... Parce que les droits, c'est toi. Droit. C'est l'auteur,
les
c'est
droits,
toi.
C'est toi. Ouais. Les droits, c'est l'auteur ou les auteurs et le ou les compositeurs. Alors, attention, par contre, il y a une légère... à ça, et j'apporterai une légère une parenthèse. C'est qu'aujourd'hui, y compris comme... faisant partie de la composition, ce qu'on appelle la top line. Donc si c'est toi, Andy, qui, sur le texte que Dast a écrit, si c'est toi qui as créé la mélodie, quand tu la chantes, tu as quand même le droit à un minimum de 5 points de composition sur les points du compositeur.
Quand tu dis donc, des ça, points, c'est des pourcentages,
des pourcentages
de ce que tu vas toucher.
C'est ça. Okay.
Donc la top line,
c'est-à-dire la mélodie, fait aujourd'hui pas. L'a toujours fait, parce que dans la pop, dans la variété, il ne se posait pas la question. Dans la pop, la composition, c'est la mélodie avant tout, les notes que tu chantes. Donc aujourd'hui, c'est rentré dans les usages. Avant, ils le faisaient très peu dans le rap, de mettre de la top line dans la compo. Mais si c'est l'interprète qui a créé cette mélodie, parce qu'attention, maintenant, il y a beaucoup de top liners, l'interprète peut ne rien avoir créé du tout, ni le texte, ni la mélodie.
Il y a quelqu'un spécifiquement qui vient pour dire à l'interprète, voilà quelle mélodie chanter lorsque
tout
tu interprètes.
Fait. Tout à fait. Et il va faire ce qu'on appelle du yaourt. Donc il va derrière le micro, il met la prod dans ses oreilles et il va chanter du yaourt. Mais au moins, il va créer la mélodie. Ensuite, sur ce yaourt, sur cette mélodie, l'artiste va poser le texte qu'il aura soit lui-même écrit, soit que Daz aura écrit. Donc dans ces cas-là, l'artiste n'a aucun point à la SACEM.
L'artiste interprète.
Mmh. Par contre, s'il a créé au moins la mélodie, il peut avoir entre 3 et 5 points ou plus en fonction des accords de composition. Et
donc, alors, quand les rappeurs ils nous parlent de ma SACEM, oui, si ça marche parce qu'ils écrivent les textes.
Absolument.
Ils écrivent, ouais.
Et après, c'est le beatmaker qui va avoir le reste pour la compo vraiment.
Okay. Attention, il peut aussi co-composer le rappeur. Le rappeur, s'il s'est posé à côté de son beatmaker et qu'il lui a dit voilà, je veux une prod comme ça, je veux tel type de drums, de batterie, je veux telle guitare, ah, il y a une mélo que j'ai un petit peu dans la tête, est-ce que tu peux la reproduire? Il a tout à fait le droit d'avoir également des points dans la composition.
Alors, mais comment tu prouves ça, en fait? Comment
c'est une très bonne question.
C'est là que les éditeurs, ils ont intérêt de rester au studio.
Voilà.
Un directeur artistique.
J'avais cette conversation tout à l'heure.
Ouais.
Le métier d'éditeur, c'est pas que prendre des points ou des pourcentages et faire les dépôts. Parce que souvent, aujourd'hui, maintenant, les artistes ne veulent plus d'éditeurs. Ils veulent être éditeurs à compte d'auteur.
On rappelle juste, Valou, l'éditeur, lui, son but, c'est de défendre la composition, justement.
Et les auteurs, en fait. Ouais. Composition, compo et auteur. Donc l'œuvre.
C'est-à-dire qu'elle soit aussi exploitée, qu'il y ait des reprises,
qu'elle soit surtout bien déposée, qu'elle soit bien défendue, aller chercher tous les droits, etc. C'est surtout qu'elle soit bien... déposer. Le dépôt est très important parce que c'est la base de tout. Le dépôt, c'est justement ce que tu disais. Comment on sait qu'un tel va avoir 5 points, 10 points, 15 points? Bien sûr que l'éditeur se doit, mais ils le font très peu, d'être dans le studio et de tout noter. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Là, quand on finit, par exemple, le podcast, j'ai une session studio avec deux de mes artistes et des compositeurs. Je vais pas là-bas pour cueillir des fleurs. Je vais là-bas. Bien sûr, j'aide parce que j'aide beaucoup, je fais beaucoup d'artistique au sein de mon label, mais j'ai aussi ce rôle d'éditeur de noter à chaque fois qui a fait quoi. L'autre, il arrive, il a dit 3 mots. Et c'est marrant ce que tu disais parce que ça m'arrive il y a quelques jours, je suis en plein dépôt de titres. Et quand on dépose des titres, avant de les déposer, on envoie une boucle de mail aux différents ayants droit. Là, pour le coup, je le fais pour un artiste dont je gère les éditions. Je suis coéditrice et gestionnaire d'édition. Et c'est des choses qu'il a fait avant de me contacter. Donc, j'étais évidemment pas dans le studio puisqu'on ne se connaissait même pas. Donc je dois faire avec les dires de chacun. Oui, mais alors moi je me souviens que lui a fait ça, lui a fait ça, lui a fait ça. Alors c'est toute une histoire de, c'est de la pédagogie aussi, parce qu'il faut éviter que les gens s'embrouillent, parce que l'idée c'est qu'ils retravaillent ensemble. Et finalement, j'envoie un mail avec certaines répartitions, bah, je reçois un message à 2h du mat, mais peu importe, on a choisi la musique, donc on ne fait pas des horaires de fonctionnaires. À 2h du mat, je reçois, très gentiment, mais je ne suis pas d'accord avec ces points-là. Est-ce que tu peux m'appeler, que je t'explique, parce que j'ai quand même écrit tel mot, tel mot. Donc je lui demande de me dire les mots qu'il a écrits, je vais réécouter la chanson pour entendre les mots. Enfin, c'est un travail de fou.
Ah ouais, c'est pour ça, juste pour...
C'est un travail de fou, vraiment.
Pour compléter ce que dit Valou, moi je sais que bah, j'étais ingénieur du son et producteur en direct, et j'éditais les œuvres. Chaque fin de studio, il y a un dépôt temporaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a Music Start qui existe, qui est disponible.
C'est
via...
quoi Music Start?
Alors Music Start est un site pour faire des dépôts, on va dire, provisoires.
Des brouillons quoi, de dépôts
Pas vraiment un brouillon, parce ouais. que ce qui compte sur Music Start, c'est la date légale de là où tu vas déposer ton œuvre. Imaginons que t'es mon pote, mais bon, tu sais pas ce que j'ai derrière la tête. Tu m'envoies une maquette, je kiffe la chanson, moi je la reprends. Je te dis, bah, moi je kiffe, je sors ta chanson, mais toi t'as aucune preuve que c'est ta chanson. Et ça revient à l'époque de l'enveloppe solo. Ça veut dire que tu mettais ton CD dans une enveloppe,
ouais, tu te l'envoyais à toi-même,
et tu ne l'ouvres pas. Comme ça, le jour où tu découvres que j'ai pris ta chanson, tu dis,
peux prouver,
attention, moi j'ai une date d'intériorité, j'ai fait cette œuvre-là avant la tienne. Donc Music Start permet tout de suite, et moi je le faisais. Ben une fois que je me suis fait douiller, mais il faut toujours une première pour se professionnaliser.
Comme ça qu'on apprend.
Ah oui, mais à chaque fin de studio, un petit Music Start pour dire voici les gars qui étaient présents dans mon studio et qui ont participé à telle œuvre.
Donc c'est quoi, c'est un site en fait où tu sur lequel tu vas et
voilà, tu mets le nom du titre, tu peux mettre les ayants droit. Et c'est vrai, juste pour revenir dessus, les ayants droit à la SACEM. Donc il y a les auteurs et les autrices, les compositeurs et les compositrices, bien sûr, les arrangeurs, les adaptateurs et les éditeurs. C'est quand même bien de le préciser parce que souvent on mélange le tout. Un arrangeur va arranger la mélodie, donc il va prendre des points au niveau de la composition. L'adaptateur, il va adapter le texte en français, en anglais ou dans d'autres langues. Du coup, l'adaptateur, il va prendre des points sur la partie auteur. Donc il faut comprendre que les ayants droit, ce n'est pas parce que... Encore une fois, la musique, oui, Leïla l'a dit, ou Valou, pardon, on est, c'est, les gens voient ça comme si c'est du football le dimanche, on joue à la baballe. Faut savoir que 70 ans après la mort, les droits sont toujours, seront libres. Et ça veut dire que, pardon, je reformule.
Les droits sur la composition.
Et l'autre, l'œuvre. Moi, je préfère parler de l'œuvre en
même
temps.
Parce que le master, en l'occurrence.
Oui, c'est le master. C'est 50 ans, mais juste pour comprendre l'œuvre, tu vas déposer une œuvre aujourd'hui. Pendant toute ta vie et 70 ans après ta vie, l'œuvre va t'appartenir avec tes héritiers ou voilà, à ceux qui tu vas donner les droits. Donc il faut comprendre que avant qu'une œuvre tombe dans le domaine public, il faut 70 ans après la mort de tous les ayants droit.
Ah ouais.
Pour ah oui, imaginons on fait un featuring là nous quatre, nous cinq.
Faut pas le faire à quelqu'un de trop jeune. Alors là, que ça va revenir tard, tu vois.
C'est dinguerie, c'est classique.
Tu seras déjà mort donc ça va
si
pas trop venir grand chose
tous ensemble. Ouais. Faut savoir qu'il faut attendre la mort du dernier auteur de l'ayant droit pour que la musique, l'œuvre tombe dans le domaine public.
OK.
Donc en fait, quand on commence à rentrer dans des discussions et dans des échanges qui est le code de la propriété intellectuelle, c'est là qu'on se rend compte que c'est pas que de la musique. Et c'est toujours important de le dire, c'est une industrie musicale. Comme on parle d'industrie automobile, l'industrie agroalimentaire. Donc il y a beaucoup, beaucoup de métiers derrière un artiste. Et au final, aujourd'hui, je suis quand même content que, mis à part dans les années 90-2000, on voyait l'artiste comme si c'était lui qui faisait tout. On voyait pas derrière le rideau, le backstage. Et là, aujourd'hui, ils sont conscients que l'artiste, au final, bon... Bah, sauf y a vraiment des artistes qui se donnent. Il y a des artistes qui reçoivent tout sur un plateau. Fais ci, fais ça, alors qu'il y a toute une équipe derrière.
Ramener une précision à ce que tu as dit, Andy. Quand tu dis il faut attendre 70 ans après la mort de tous les ayants droit pour qu'une œuvre tombe dans le domaine public. Je voudrais juste préciser ce que ça signifie tomber dans le domaine public. Ça veut dire que, en tant qu'artiste ou producteur ou compositeur, tu peux reprendre cette œuvre-là sans avoir à demander d'autorisation ou à payer des droits pour l'utiliser.
Voilà.
Dans le rap, on a toujours, comme vous le savez, utiliser le sampling. On a toujours samplé, on a toujours repris à l'époque des anciens morceaux de soul, des anciens morceaux de funk, réadaptés à aujourd'hui. Aujourd'hui, ça continue. On reprend des anciens morceaux d'R&B, des anciens morceaux de rap américain ou même français qu'on va réadapter. Eh bien, il faut savoir que ça pose, j'ai encore eu le cas hier, toujours des problèmes. Non, mais c'est sérieux. Ça pose toujours des... Même quand vous reprenez que la mélodie d'un refrain très connu qui est sorti dans les années 2000, par exemple, eh bien, il faut que les producteurs du master donnent leur autorisation. Il faut que les compositeurs du titre donnent leur autorisation. Mais en général, ils la donnent à condition que sur le bulletin de répartition, le boulot, notre boulot des éditeurs, on leur donne une partie des points, donc du pourcentage. Évidemment, ils ne donnent pas leur autorisation comme ça. Ça veut dire que quand on fait un titre qui est une reprise, ok, on va peut-être avoir beaucoup de chance parce que souvent les reprises, on dit qu'elles marchent mieux parce qu'elles sont déjà dans l'inconscient collectif et on se dit « Ah, le morceau va marcher, j'ai repris ça ». Il faut juste savoir qu'on le fait pour la fame parce qu'au niveau de l'argent que ça te rapporte, c'est très peu. On le fait pour faire des showcases. Alors oui, on va récupérer l'argent des concerts, des showcases, bien évidemment. Mais en termes de droits, il y a énormément de droits qui vont aller alors au master, au producteur du master de l'époque, mais également au compo.
Ouais, mais alors, question, parce que moi, j'avais beaucoup de questions là. Le hip-hop, initialement, quand il a commencé à péter en France, donc c'était vraiment du freestyle pour le coup, les gens faisaient un peu tout et n'importe quoi, donc comment on s'assure de cette partie-là quand le morceau original que tu vas potentiellement reprendre 30 ans plus tard, il a même pas été complètement bien déposé, il y a rien qui a été noté, enfin... Le nombre de trucs où ça s'est fait sur un coin de table, tu balances un freestyle, machin.
Tu retrouves toujours, Daz. Oh ouais, tu retrouves toujours.
Parce qu'il y a plein de boîtes, notamment de boîtes de prod, de labels hip-hop des années 90 qui ont disparu, en fait.
Ouais, mais justement, t'inquiète pas que quand un morceau pète et fonctionne.
On vient de chercher.
Je t'assure que les mecs qui l'ont créé viennent. Je voudrais donner comme exemple. C'est un film qui est sorti récemment, là, il y a quelques mois, et un documentaire. L'exemple du groupe Milli Vanilli aux États-Unis. Donc, le documentaire vient de sortir. Pendant toutes ces années, le scandale, ça s'appelait le scandale Milli Vanilli, pendant toutes ces années, on pensait que les arnaqueurs, ou en tout cas ceux qui avaient fait... les arnaqueurs, ceux qui n'étaient pas, droits, étaient les deux membres du groupe. Donc Fab Morvan et l'autre membre qui malheureusement nous a quittés... qui s'est suicidé, qui n'a pas supporté la pression, malheureusement. C'est aussi un gros problème, ça, dans notre métier, la santé mentale.
Parce que ce groupe-là, on va juste pour recontextualiser, c'était un groupe où, en fait, on s'est rendu compte que les frontmen qui étaient sur scène et qui faisaient les concerts, c'était pas les chanteurs.
C'était pas les chanteurs. Ouais. Mais en fait, si vous regardez le film que je conseille à tout le monde, qui est extrêmement bien fait et qui nous apprend beaucoup de choses, pas que sur Milli Vanilli, mais justement sur toute l'industrie de la musique, je conseille vraiment à tout le monde d'aller le voir.
Ça s'appelle comment ? C'est une fiction ? C'est un documentaire ?
C'est Milli Vanilli... de la gloire ou je sais plus, mais enfin si on tape Milli Vanilli le film ou le docu, on le trouve. Je me rappelle plus exactement du nom, il est sorti il y a quelques mois. On se rend compte qu'au final le vrai arnaqueur c'était pas les deux artistes qui eux étaient de vrais artistes qui savaient chanter, danser et qui ne demandaient que ça, de poser leur propre voix. L'arnaqueur c'était le producteur allemand, c'est un Allemand qui est décédé aujourd'hui, on voit toute sa vie dans le film, qui a monté tout ce stratagème, c'est-à-dire que lui, dans sa tête, il avait une idée bien précise. Il voulait faire un coup, ce qu'on appelle un coup. Donc, prendre deux artistes où c'est le physique et la danse qui passent bien. Ensuite, prendre un chanteur, plusieurs chanteurs qui chantaient super bien, mais qui n'avaient pas forcément le physique, pour le coup. Donc, en gros, assembler différentes pièces qui vont faire que ça va être des stars. Et ça a été des stars. Ils ont gagné des Grammys. Mais vraiment, c'était incroyable. Michael Jackson voulait chanter avec eux. Quand vous regardez le docu, le film, c'est extraordinaire ce que ce producteur allemand, mais également BMG, parce qu'après ils ont signé chez BMG États-Unis, ont réussi à faire avec ce groupe. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que pourquoi je vous raconte ça? Parce que les chanteurs de base, qui étaient des chanteurs afro-américains, de soul, qui avaient déjà à l'époque la quarantaine, qui chantaient pour des jeunes, qui étaient tout jeunes, qui avaient à peine 18 ans. Le producteur avait repris pour un des titres qui a cartonné Girl You Know It's True, celui qui est
le morceau
le plus connu. Il avait repris, le producteur qui était vraiment un arnaqueur né, un couplet de rap de quelques mecs, je ne me rappelle plus la ville, je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais plus si c'était Brooklyn ou je ne sais plus, des quartiers américains, des mecs qui rappaient, mais justement, comme tu disais, qui n'avaient pas de structure, rien déposé, il avait entendu leur CD, je sais pas comment, il avait récupéré le CD, il avait donné ça, et ça a fait les couplets de Milli Vanilli. Sauf que quand il y a eu le gros carton, qu'ils étaient en Buzzmax, qu'ils sont arrivés numéro 1 du Billboard devant Michael Jackson, devant des énormes stars, vous imaginez bien que les petits gars de Harlem, ou je sais plus qui c'est, mais bien sûr, c'est pour ça que je te raconte ça.
D'accord, donc
et
oui,
d'ailleurs,
en fait,
et d'ailleurs, ils ont eu gain de cause, ils ont récupéré beaucoup d'argent, etc., etc.
Mais alors comment ils l'ont prouvé puisqu'ils avaient rien?
Et attends, ils ont tellement eu gain de cause qu'ils sont devenus après, ils se sont mis, enfin, je veux pas tout vous spoiler, faut vraiment que vous regardiez, il est extraordinaire ce docu et ce film, ils se sont carrément mis dans la production du groupe avec eux. C'est eux après qui produisaient Milli Vanilli.
Bah, il y avait un CD déjà, si j'ai bien compris, quand même, qui pouvait peut-être faire office de preuve qu'ils avaient déjà posé des trucs et tout, enfin, que c'était intérieur, je sais pas.
Ah bah, ils ont eu gain de cause, hein, je t'assure. Ouais. C'est... Ah oui.
Mais j'aimerais bien qu'on revienne, parce qu'on a commencé avec Leïla à esquisser un peu ces structures. Donc là, on comprenait qu'il fallait séparer d'un côté. Les interprètes des auteurs-compositeurs. D'ailleurs, quand on parle d'interprète, on pense évidemment à la personne qui va chanter, par exemple, mais en fait, ça peut aussi être tous les interprètes, le guitariste, le bassiste, etc.
Le beatmaker même.
Ouais.
Parce que le beatmaker, il compose la musique, mais il l'interprète aussi en faisant de la MAO, en fait. Ah. Et ça, c'est aussi un truc important à savoir.
Ça a été un questionnement, ça, d'ailleurs. Je crois que ça n'a pas été si facile de se dire, est-ce que le beatmaker, parce qu'on avait un peu le modèle classique de l'instrumentiste, entre guillemets, je crois que ça a été une question, non, où je me trompe, de se dire, est-ce que le beatmaker est l'interprète aussi, au-delà d'être du compositeur?
Bah, je pense que la question, on sait que l'interprète, c'est, enfin, le beatmaker et l'interprète. Après, ça pose, enfin, il faut aussi que l'interprète, enfin, le beatmaker ait conscience de cela et que, effectivement, qu'il s'inscrive aussi aux organismes de gestion collective qui gèrent les interprètes. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure.
Mais à partir de quand tu peux t'inscrire, en fait? Est-ce que quand tu fais de la musique dans ta chambre, t'as le droit de t'inscrire?
L'artiste, il n'est pas artiste à partir du moment où il a franchi un certain stade.
Mais je sais pas,
du moment où tu as créé une œuvre, tu peux t'inscrire.
Okay.
Après, il faut juste savoir que tu peux t'inscrire.
Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se disent, tant que j'ai rien sorti,
alors je sais pas pour la
Gagne, je vais me faire jeter si jamais je contacte ces organismes.
Pour la SACEM, oui. Pour la SACEM, tu as raison. Il faut justifier d'avoir déjà sorti
quelque chose. Ouais.
Pour Spedidam et Adami, je suis pas spécialiste. Je ne sais pas s'il faut d'avoir.
Spedidam, Adami. Donc là, c'est pour les interprètes. SACEM, c'est pour donc les auteurs-compositeurs. D'ailleurs, à une époque, ça a complètement volé en éclats. Mais pour rentrer à la SACEM, pour être sociétaire, il fallait passer un examen. Si je dis pas de bêtises, ce qui n'existe plus aujourd'hui.
Pour avoir le droit de faire.
Absolument, il fallait montrer en fait que t'étais vraiment un musicien. Donc c'était limite savoir connaître un peu de solfège, des trucs comme ça.
Ah ouais.
À ma connaissance, c'était vraiment un véritable examen pour s'assurer que t'es un musicien réellement, un compositeur. Sauf qu'évidemment, avec la musique populaire qui s'est extrêmement développée, ça n'avait plus de sens.
Ça a sauté quand ça a commencé?
Je sais pas du tout. Je sais pas si vous le savez.
Ça fait longtemps. Aujourd'hui, il y a une cotisation à payer, bien sûr, mais enfin, qui est minime. Et c'est une seule fois. C'est au moment de l'adhésion.
Donc pour la SACEM, il faut quand même avoir de la musique sortie quelque part.
Une première exploitation.
Alors que pour le reste, en fait,
c'est pas exactement encore.
C'est une feuille de présence qu'il faut prouver. Parce que si tu interprètes un texte ou si tu interprètes un texte ou une mélodie, tu dois prouver dans quel lieu, avec quel producteur de spectacle ou où est-ce que tu as interprété ta musique. Et j'ai aussi appris que même en radio, si tu as interprété un freestyle, tu as le droit de déclarer ta séance radio en disant que tu as fait un freestyle en radio pour être payé par
un... Mais ça veut dire que tu dois t'appuyer sur le bon vouloir de la radio en question.
Du programmateur. Il doit te remplir une fiche en disant « Oui, j'ai bien reçu cet artiste-là, il a joué ça. » Mais c'est les équipes, c'est là où on en parlait, que ce soit des managers, des éditeurs. Eux, c'est leur intérêt de revoir l'argent de ton artiste.
Voilà pourquoi c'est important d'avoir une équipe. Et un éditeur et un manager.
Parce que donc
producteur.
les mecs qui arrivent sur un freestyle Cypher, ils sont 57 dans le studio, tout le monde fume et tout machin. Enfin, comment tu sais qu'à un moment donné
ils peuvent avoir des droits. Mais en fait, un truc que j'ai appris même tardivement, quand les artistes font des lives, ben en fait ils peuvent gagner beaucoup d'argent, mais ils ne savent pas. Donc tendez l'oreille. Imaginons donc vous avez un band, vous avez un groupe, l'artiste il chante. Donc déjà, on oublie les paperasses qui produit ou qui produit pas, on va direct au but. Ben en fait, il peut très bien enregistrer son live, qui fait qu'il va créer un phonogramme. Mmh. Il va créer un master de son live. Et ce master-là, il peut très bien l'exploiter. Et moi, je parle souvent aussi pour la scène guyanaise. Je me dis, mais les gars, tu viens de faire un show, l'époque de Bob Marley. Chaque album de Bob Marley, il avait aussi une version live. Mmh. Et moi, j'aimerais retrouver ce truc-là de, tu vas faire un freestyle, même si tu te trompes. En fait, c'est ça qui me manque. Si je fais une petite parenthèse, mais j'avoue que là, la musique, elle est trop bien faite. Il y a plus c'est ce côté d'erreur, ce côté
organique un peu.
Organique, mais au-delà de l'organique, le côté où t'es un artiste, vas-y mon pote, trempe-toi, c'est pas grave. Mmh. Et là, avec tous ces outils, on a aussi ramené le côté très
carré,
calibré, la snare, par exemple la caisse claire. Mmh. J'ai rencontré un beatmaker qui me disait, lui, ses caisses claires, il les décale de une millième de seconde. Il veut pas que ça soit calé. Le côté média, la métrique, le côté trop, parce que c'est pas vrai, un batteur, quand il est dans les temps, mais il est pas totalement dans les temps. Ouais. Donc voilà, en fait, c'est vrai que pour moi, aujourd'hui, la musique, elle perd un peu de cette spontanéité, où avec les cyphers, les freestyles, les rencontres, ah, j'aime bien ce que tu fais, ou même, ah, j'aime bien ton style, vas-y, on fait de la musique. Enfin, sans même écouter la musique, retrouvons le truc de, ah, il a combien sur Internet? Ah, il est à 20, il a 100 abonnés. Non, bon, non, non, ça doit pas être bon.
On avait fait un débat là-dessus, d'ailleurs, pendant le Off des Flammes, sur quelle est la valeur des chiffres aujourd'hui, en fait.
On
regarde plus souvent les chiffres que la musique en 2025. Et qu'est-ce que ça dit de notre consommation, de notre perception? Et parfois, les chiffres peuvent être aussi utiles. Justement bah, pour des territoires qui sont sous-représentés dans la musique. Enfin, on le dit souvent avec Andy, pour les artistes ultramarins, les chiffres sont hyper représentatifs, en fait, parce que c'est avec ça qu'ils peuvent convaincre. Et en fait, s'ils n'ont pas les chiffres de leur musique, ça va être, ils partent avec...
un handicap.
Ouais, un handicap.
Ouais. SACEM, Spedidam, SCPP.
SCPP, SPPF, ouais. C'est les droits voisins des producteurs phonographiques.
Il y en a 5, j'avoue. Ouais,
si mais je... tous ne vous concernent pas. Hein,
Bien sûr, en tout cas, voilà, c'est ceux qui vont récolter les droits. Mm-hmm. Est-ce qu'ensuite, il y a d'autres acteurs, plus dans la récolte de droits, qui sont essentiels, il faut aller toquer à leur porte?
Alors, du coup, tu l'as dit tout à l'heure, le Centre National de la Musique, le CNM.
Gros morceau, là, parce que c'est...
Ouais. Ouais. Alors, il faut aller toquer à la porte, mais pas forcément dès le départ. En fait, le Centre National de la Musique, c'est un établissement public qui est sous responsabilité du ministère de la Culture. Donc, c'est une administration publique. Le Centre National de la Musique représente l'État, en quelque sorte, mais du coup, dans le domaine de la musique. Et sa mission, c'est de regrouper, du coup, tous les professionnels de la musique, que ce soit les artistes, mais aussi tout leur entourage, pour les accompagner, structurer la filière, faire en sorte que ce soit le mieux organisé possible. Et aussi, il agit comme... un organisme de financement. Donc, il y a des taxes qui collectent de l'argent qui est ensuite redistribué aux acteurs de la musique. Donc, c'est un organisme assez intéressant parce que, au-delà des subventions qu'il peut donner, il y a tout un aspect formation. Ils produisent des études, ils produisent des ouvrages qui permettent de se renseigner, d'en savoir plus.
Ça veut dire, pardon, je t'interromps. Alors, dans le cas évidemment d'un artiste par exemple qui se lance, mais aussi d'un jeune éditeur qui ne connaît pas encore hyper bien son métier, mais qui a commencé à monter sa structure, etc. Je peux aller voir le CNM et dire, même tout simplement pour la formation, avoir le droit à des cours, j'en sais rien, sur place, des choses comme ça.
Oui, il y a de la formation, il y a une cellule de conseil, il y a des webinaires qui sont organisés pour expliquer telle ou telle chose. Il y a vraiment un aspect information qui est assez important au CNM, mais pas que. Il y a plein d'autres organismes qui sont du coup plus privés, comme Fédérap, parce qu'on n'est pas un organisme public, on est indépendant, on est tout seul, on fait ce qu'on veut, on communique sur ce qu'on veut, qui vont apporter cette connaissance et ce savoir, parce qu'en fait, il y a tellement de choses à savoir dans la musique aujourd'hui, il y a tellement de règles, ça change tout le temps, il y a toujours des petits trucs qui évoluent et tout, et c'est pour le bien de tout le monde, parce que si on était figé dans le temps... ça se trouve, il n'y aurait pas d'OGC, il y aurait plein de trucs qui n'existeraient pas.
Parce que là, tu parles donc de la formation, de la connaissance, etc., qui est le nerf de la guerre, très clairement. Si on veut des artistes autonomes, ou du moins au fait de ce qui se passe, de comment s'entourer, etc., il faut qu'ils aient... Ce que tu disais, Andy, toi, tu exiges de la part des artistes aussi de montrer un peu de volonté, de comprendre, etc. Je suis complètement d'accord avec ça. Et en même temps, c'est aussi à la fois au pouvoir public et puis aux entourages des artistes, etc., de mettre à disposition aussi, que les artistes aient conscience que l'information existe, que c'est un vrai écosystème. On doit quand même aussi faciliter l'accès à cette information. On peut pas juste dire « à toi de te débrouiller ».
C'est totalement vrai et on va dire que aujourd'hui, si je dois parler de mon cas pour la Guyane, aucune institution n'est représentée en Guyane. Du coup, on a un peu ce fossé où on peut pas forcément...
Le CNM dont parlait Leïla, par exemple, on veut le voir en Guyane, on peut pas le voir.
C'est pas possible. Par contre, ils sont disponibles par mail ou par téléphone. Mais on n'a aucun espace pour aller chercher de la ressource, de l'information. Ça veut dire, en tout cas pour la Guyane, c'est Internet. Si t'as Internet et des contacts, tu peux te débrouiller, sinon ben, tu vas toujours fonctionner.
C'est un territoire français, l'État n'a personne pour aider les musiciens sur place, alors qu'il le fait sur le territoire métropolitain.
Voilà, hexagonal.
Moi, c'est raccord avec le terme. Mais... C'est raccord avec le reste, alors, parce que... Ouais.
Oui, la Guyane, parce que la Martinique, il y a justement la représente, ben, Emmanuel qui représente.
Oui, mais c'est pour la SACEM, mais c'est vrai que le CNM, que ça soit dans tous les Outre-mer, mis à part à La Réunion, il y a aucun dispositif de CNM dans les Outre-mer. Même un lieu comme La Place, sur Châtelet.
Centre culturel, hip-hop.
Centre culturel, voilà, on n'en a pas. Bon, je vais pas me plaindre, hein, c'est juste que...
Non, mais tu peux rappeler la réalité, quoi.
Ah, oui. C'est vrai qu'on a des artistes comme Jayana et Bambi et Fanny G, le haut du gratin guyanais, qui a su se débrouiller sans ses outils, qui ont dû partir de leur département à 8000 km pour se former, pour s'entourer de professionnels. Et c'est la seule solution concrète si on veut vraiment passer un step aujourd'hui en Guyane. Mmh. C'est pour ça aussi que je suis rentré il y a 3-4 mois définitivement. Mmh. Au final, je suis toujours... ici, mais j'ai décidé de ramener mon studio de musique en Guyane parce que, en tant qu'acteur de l'industrie, je me sens maintenant obligé de transmettre. Mais c'est même plus, je suis pas obligé, je suis pas contraint. C'est normal de le faire aujourd'hui. Je suis parti de la Guyane pour aller me former. Je dois revenir pour transmettre. Faut pas que les étudiants ultramarins l'oublient parce qu'au final, dans nos territoires, ben, toute la jeunesse et toute cette force vive s'en va. Et on va pas se mentir, une fois qu'on vit en Europe, qu'on voit un peu le monde qui s'offre à nous, à 35 euros, on va à Dublin pour 40 balles, on bouge, on a un peu plus du mal à rentrer chez nous.
Valou, cette disparité de territoire dont parle Andy, alors en prenant l'exemple de la Guyane, qui est un exemple extrême, dans le sens où on a l'impression qu'il y a quand même, enfin c'est un territoire quasi abandonné en tout cas.
Pas mal vierge, un territoire très vierge.
Bon, ce qui est embêtant, alors que justement, le rôle en partie de l'État, à travers CNM, etc., c'est d'accompagner aussi les professionnels. Est-ce que même à l'échelle de l'Hexagone, il y a des disparités entre les territoires? Je sais pas, l'Île-de-France, le reste, l'accès à l'information, l'accès aux structures?
Bien sûr. On est extrêmement privilégié en Île-de-France, puisqu'on a accès à tout. Il y a quelques grandes villes où on peut retrouver... Tu te souviens, Leïla, on avait été...
À Caen.
À Caen, voilà. On avait été à Caen. Il y a quelques grandes villes comme ça qui mettent en place des séminaires. On était parti d'ailleurs avec une super fédération d'éditeurs aussi, qui fait de la formation pour les éditeurs. Mais bien sûr qu'il y a de la disparité aussi parmi les territoires de métropole, c'est certain. C'est très difficile. Après, nous, on fait déjà ce qu'on peut à notre échelle. Mais par exemple, dans Fédérap, nous avons des membres qui viennent d'un peu partout dans la France. On a des Marseillais, on a des personnes de Bordeaux, on a des personnes un peu partout dans la France qui, justement, adhèrent à Fédérap parce qu'ils ont ce manque d'informations dans leur ville.
Donc, alors c'est marrant parce que quand on avait reçu justement le FER, on parlait des SMAC, etc.
Oui.
On avait quand même reconnu qu'il y avait un maillage territorial qui était quand même fin au niveau de du pays. Et là, en fait, on se rend compte que donc c'est le cas pour tout ce qui concerne vraiment
le développement
l'art en lui-même.
Ouais, là, tu parles des salles de concert, des SMAC, des salles de concert,
qui font aussi de la résidence et du développement.
Exactement. Dans toutes les villes, dans toutes les grosses villes, il y a quand même bien sûr des endroits comme à Lille. Enfin, il y a des endroits où ils font de la résidence, des endroits comme la place, des centres culturels, etc.
Mais du coup,
je vous parlais plus de vraiment de bureaux d'accès à la formation.
Donc il y a une asymétrie en fait entre l'art en lui-même en tant que pratique et par contre sa gestion.
Disons que si je dis pas de bêtises, dans les SMAC, on va pouvoir aussi te dire, tu sais qu'il y a ça qui existe, regarde sur Internet, tu sais la SACEM, tu peux trouver une première base d'information, mais ensuite tu veux t'adresser aux concernés directement, là ils sont pas là par contre.
En fait, tout dépend des associations de la ville. Moi je sais qu'on me fait souvent venir en Belgique ou la Belgique parce que pays francophone frontalier, mais on me fait venir en Belgique pour faire des conférences justement pour apprendre le métier de producteur, de manager dans la musique urbaine, afro, rap, etc. Après voilà, si les associations des villes hébergées par des SMAC ou pas, ont l'envie, ont l'initiative de nous contacter pour nous faire venir comme ça. Oui, il y en a qui le font. Il y en a qui le font, mais après, effectivement, c'est peut-être pas assez.
En fait, il y a des spécificités aussi. C'est que nous, on s'adresse à des acteurs du rap. Du coup, on va parler de leur spécificité, de ce qu'ils rencontrent, parce qu'en fait, tous les artistes et tous les producteurs, tous les entourages, en fonction de l'esthétique, ont des problématiques différentes. C'est vrai que, en termes de, si on prend la grande catégorie musique actuelle, il y a quand même un énorme travail qui est fait sur le territoire, etc. On est quand même, enfin, je l'ai dit au début, mais on est un des pays où c'est le plus développé quand même. On a beaucoup de chance. Mais effectivement, après, il y a des spécificités par esthétique, par métier. Tu vois, tout à l'heure, on a parlé du beatmaker. Bah, en fait, c'est un truc hyper propre au rap de base, tu vois. Et en fait, s'il n'y a pas des personnes qui ont cette expertise-là, elles ne pourront pas la transmettre à l'endroit où il faut la transmettre. Donc, c'est pour ça que nous, on essaye d'en faire des rap, de faire ça, de transmettre ce qu'il faut faire quand tu es un rappeur, quand tu es un beatmaker, quand tu es un professionnel du rap.
Vu qu'on... On constate quand même que l'hybridation entre les différents styles et les différentes esthétiques marche à plein de nos jours. Sous-entendu, un rappeur ou quelqu'un qui fait de la pop, souvent ils utilisent les mêmes instruments, les mêmes machines.
Ils n'ont pas forcément les mêmes réseaux et la même scène. Ils sont pas forcément issus de la même scène.
Oui, mais en fait, tu vois, tu utilises Ableton quand tu fais du hip-hop. Bon, bah, un mec qui fait du rock ou de la pop, il va utiliser Ableton aussi. Donc en fait, finalement, tout se fusionne en termes de... Est-ce qu'il y a encore vraiment des disparités très franches? Parce que tu parlais des beatmakers. Bon, bah, les beatmakers, maintenant, on en a... Enfin, Taylor Swift, elle a des beatmakers, tu vois. Donc, il y a plus de... Il y a encore vraiment des
circuits
fossés entre les différentes esthétiques.
Bah, si on peut reprendre quelque chose qu'on a dit tout à l'heure, tu vois, dans le rap, quand même, les artistes vont en studio accompagnés de énormément de personnes. Et en fait, s'il y a quelqu'un qui a... donner sa petite patte sur un morceau, tu vois,
quoi,
ça fait en fait ça c'est des trucs qui sont propres au rap. Les mecs viennent au studio accompagner leurs potes, et s'il y a chacun de leurs potes qui pose un truc, ça fait une spécificité propre au rap, en fait.
Mais on est d'accord que les mecs qui font ça, les potes en question, ils sont même pas conscients de ce truc là de se dire tu devrais plutôt le faire comme ça machin, et se dire voilà, faut que je le note quelque part parce que ça se trouve je peux gratter des droits.
Alors,
ou des points.
T'as raison, il y en a beaucoup qui savent pas. Je sais par contre que sur la question des droits en studio et tout, il y a parfois des mecs qui sont un peu au fait des choses et qui par exemple peuvent même s'arranger entre eux en disant allez vas-y, t'es un pote, je te mets une petite part. Ou alors vous savez quoi, là on est cinq dans le studio, on va pas tous faire la même chose, on va pas tous autant travailler entre guillemets, autant mettre la main à la pâte, mais on fait 50-50 tout le monde. Enfin on partage, etc.
J'ai une anecdote sur ce que tu dis, et ça a été sûrement l'une de mes plus grosses productions, et je peux vous dire que ça fait mal. Ça veut dire que oui, il peut avoir ce genre d'arrangement, mais ça agace l'artiste. En tout cas pour ma part, ça a agacé l'artiste qui au final a dit vous savez quoi, c'est soit tout le monde à 20%, soit il signe pas la déclaration. Et quand on arrive à cette exaspération, on est exaspéré de courir derrière les gens. L'artiste, il en a juste marre. Il veut juste sortir sa musique. Mais le beatmaker va dire, ouais, mais toi, je t'ai arrangé, toi, pas, machin. Donc, c'est bien le copinage. Mais il faut pas que ça puisse... faut pas que l'artiste puisse non plus être délaissé de ça, se sentir un peu noyé par les points. Parce qu'au final, de base, comme tu l'as dit, il est là pour faire de la musique.
Bah ouais, c'est ça.
Et au final, plus il grandit, plus il se sent coincé avec des règles, avec des points, tu peux pas travailler avec un tel. Et donc voilà, c'est vrai que cette expérience-là, moi, m'a marqué, parce que le mec qui a 20% comme moi, il a fait deux clics. Je te jure, il a fait deux clics avec sa souris. Ouais. Il a autant de pourcentage que moi qui ai enregistré, mixé, j'ai fait les arrangements, j'ai touché la prod, j'ai fait le master, plus la promotion et tout. Mais si on reste dans l'état pur de l'enregistrement, je suis un élément important de cette œuvre, et pourtant j'ai 20% comme celui qui a fait 2-3 clics. Donc pour le bien de l'œuvre, j'ai pas voulu, parce que voilà, on est capable de dire non, hein, sinon.
Après, excuse-moi Andy, mais l'ingé son et celui qui fait le mastering, normalement il a pas de point dans le...
Tu
parles du master.
Le propriétaire du studio, les artistes qui ne viennent pas, qui ne payent pas, et quand ça arrange en termes de contrat, l'ingé son est producteur, donc il a les masters. Si l'artiste, tu développes un artiste, et même en tant qu'éditeur phonographique, je me suis placé partout. Non, je connais mes droits, tu vois, je me suis placé partout.
À partir du moment où c'est accepté, en fait, on a le droit de tout. D'ailleurs, je voulais rebondir sur ce que tu disais, ce cas de figure dont tu parlais arrive très souvent. À partir du moment où l'artiste, il est d'accord, moi ça m'arrive très souvent avec mes artistes, il me dit voilà, moi j'ai mon équipe, c'est une équipe qu'on a montée ensemble, topliner, lui il m'aide à topliner, lui il m'aide à écrire, lui, il m'aide sur la compo. Valou, quand tu feras les dépôts, je veux que ma part, tu la divises à part égale entre nous cinq ou nous quatre ou peu importe. C'est vu avec l'artiste, c'est confirmé, c'est validé. Il n'y a aucun souci. En réalité, tant que les personnes sont d'accord, Andy, il est d'accord avec ses artistes, il se place, même s'il a fait un G, il prend des points, etc. En fait, un contrat, c'est toujours pareil. On met ce qu'on veut bien y mettre dedans à partir du moment où tous les parties sont d'accord, tout simplement.
C'est vrai. Et c'est vrai que la réalité du moment n'est pas forcément aussi celle du futur. Notamment, par exemple, face au succès, on disait « Ah oui, on s'était mis d'accord, mais je sais pas. Maintenant, je suis un peu moins. Ça peut arriver, ça.
Ah ouais, mais une fois que c'est déposé, c'est déposé. Hein.
Voilà pourquoi autant moi je.
Attends, on peut redéposer. Pardon, excusez-moi. Je veux pas dire baisser. On peut redéposer un titre quand, par exemple, il y a un ayant droit qui dit ah vous m'avez pas. Pour redéposer un titre, il faut que tous les ayants droit soient d'accord et signent.
C'est-à-dire si il y a quelqu'un qui se dit attendez moi j'ai pas été intégré dans le truc. Ouais. Il faut qu'on en reparle. C'est possible.
Pour refaire le dépôt.
Il faut que tous les autres soient d'accord.
Tout à fait.
C'est-à-dire si les autres ils disent bah en fait non.
Tant pis pour toi, c'est horrible.
Bah, en fait, il y a quelque chose où, pour ne pas que ce cas de figure arrive, je vais prendre un peu de temps, mais c'est important d'expliquer. À la SACEM, il y a la rétroactivité. Ça veut dire que pour que la SACEM puisse aller chercher tes droits, il faut qu'il y a 6 mois, on va dire 6 mois avant, 6 mois après. Mmh. Si tu ne... Tu as le droit de déclarer ton œuvre 6 mois avant sa première exploitation et tu as le droit de la déclarer maximum 6 mois après. Mais là où ça pose un problème... C'est quand la musique sort, aujourd'hui, avec le côté instantané, c'est 3 mois de buzz, on va dire. Tu as un titre qui explose. C'est les 3 premiers mois qui vont te générer de l'argent. Mais si tu déposes ton œuvre 3 mois ou 6 mois après, la SACEM n'a pas le temps de récolter tes droits de la première semaine du buzz. En fait, ce qui va bloquer à un moment donné, c'est que la SACEM va récolter les droits à partir de 3 mois après l'effet de succès sur cette œuvre. Donc, je sais que la SACEM, c'est son rôle. On a le droit, d'ailleurs, en tant qu'éditeur, de faire des, on va dire pas des relances, mais on a le droit de,
les
reclaims pour vraiment, cartographier certaines radios ou certains pays sur une œuvre pour vraiment savoir est-ce que la SACEM n'a pas oublié telle ou telle radio ou tel droit. Mais pour ne pas complexifier la chose, déclarez vos œuvres avant la première exploitation. En tant qu'éditeur, je sais si mon œuvre est déclarée avant la première diffusion d'une radio, mais je sais que l'argent de cette première radio qui a diffusé mon œuvre va revenir dès janvier.
Oui, parce que c'est juste une question, pardon, excuse-moi Valou, c'est juste une question de timing, parce que tu dis quand même que c'est-à-dire que même si c'est rétroactif, c'est juste le moment où tu vas toucher l'argent, en fait, c'est ça, et quand c'est trop décalé, bah, potentiellement, ça peut mettre dans la merde.
C'est l'erreur est humaine, en fait.
Là, t'as dit un truc, t'as dit rétroactif 6 mois, donc ça, on est d'accord, on est tous sur cette base-là. Admettons que mon titre, il est sorti le 1er juin, là, on est en décembre, si je le déclare là, dans les semaines qui arrivent, logiquement...
Il va prendre à partir de décembre. Ils vont compter à partir de décembre.
Mais non.
Oui. En fait,
alors du coup, c'est pas rétroactif.
En fait, ils vont commencer
rétroactif pour moi, ça veut dire que ça prend en compte aussi ce qui a été généré.
C'est ce que j'ai cru comprendre aussi, oui.
Bah, non, quand tu parles de la rétroactivité, la SACEM a le droit d'aller chercher 3 mois, voire 6 mois en arrière.
Voilà.
Mais si ton morceau, tu l'as déclaré en avril, il va prendre à partir de... Ouais, c'est pas en décembre, pardon. Il va prendre à partir de juillet, août ou septembre, tu vois. Mai, juin, juillet, août, septembre. Ouais, septembre. Si on reste sur les 3 mois, ils vont commencer à récolter tes sous à partir de 3 mois. Donc septembre, tu vas toucher septembre, octobre, novembre, décembre. Ils pourront pas récupérer l'argent d'avant, en fait.
Et pourtant, si c'est 6 mois, non, c'est pas...
Il faudrait que je vérifie entre 3 et 6, mais c'est pour ça que je dis souvent...
C'est un peu flou, parce que même nous, on a des infos, comme disait Leïla. C'est incroyable. Non, mais les infos changent tout le temps. C'est ce que
ça change
souvent.
Ouais. Bah
ça
oui.
change vraiment tout le temps. Il faut se mettre à jour.
Ouais.
Alors, ma question, comment on se met à jour? Déjà, c'est quoi enfin...
Vous-même, en tant que professionnel, comment vous mettez à jour? C'est vrai, ça.
Ouais, c'est des juristes qui suivent toutes les publications au journal officiel, ou je sais pas, ça sort où, ce truc-là?
Bah, en l'occurrence, pour la SACEM, en fait, la SACEM, elle est gérée par ses membres. Du coup, il y a des personnes qui sont élues par tous les sociétaires de la SACEM, qui siègent au conseil d'administration, et qui vont prendre ce genre de décision-là. Donc, c'est aussi important de savoir qui est dans ces conseils d'administration, parce que ils vont prendre les décisions que eux semblent le plus justes, mais qui sont peut-être pas forcément les plus justes pour tous les artistes. Donc déjà, il y a un aspect assez politique dans cela. Et ensuite, bah, du coup, ils vont se réunir tous les je sais pas combien de temps, et ils vont se dire, bah, nous, on pense qu'il faudrait faire évoluer ça, ils votent, machin. Et après, c'est inscrit dans les statuts, il y a des informations aussi qui sont transmises de la part des organismes où il y a les choses qui changent. Mais c'est vrai que, en fait... quand on est un professionnel, on est au studio, on fait de l'artistique et tout, on n'a pas le temps d'aller checker tous les jours sur le site de machin, truc bidule, surtout qu'on a cité, je sais pas, 5 organismes tout à l'heure, bon, on n'a pas cité encore la moitié, tu vois, donc il y a énormément d'organismes. Et c'est un métier hyper mouvant, parce qu'il y a des enjeux nouveaux qui arrivent tout le temps, l'IA, machin, plein de choses. Donc effectivement, il y a des organismes qui font un peu cette veille. Déjà, si vous avez un entourage juridique comme les avocats, etc., bon, ils sont un peu censés faire ce travail-là, mais il y a aussi d'autres organismes qui font la veille.
Pour répondre à ta question, il y a la convention collective.
Oui,
la convention collective de la musique qui se met à jour chaque année, chaque début d'année. Donc là, on est sur celle de 2025. Et dans la convention collective de la musique, tu trouves tout ce genre d'infos. Par exemple, combien tu dois... Alors là, je parle pour nous en tant que producteurs, les cachets que tu dois payer à tes artistes, puisque vous savez qu'un artiste, quand il est produit dans un label, on doit le payer. On doit le payer pour ses séances studio, on doit le payer pour ses clips. Enfin, il y a plein de choses où on doit le payer.
Même ses répétitions.
Ses répétitions, on doit le payer pour les titres qui sont sortis. Alors justement, on se base sur la convention collective de la musique qui... Encore une fois, ça change tous les ans. Moi, à chaque fois, je suis là, combien c'est combien pour le clip ? Parce que ça change tout le temps. On se réfère à la convention collective. Quand on a l'artiste à clipper, on lui fait un bulletin de salaire avec un cachet qui est autour de 200 et quelques, 250, ça monte tout le temps. Pour le clip, on lui paye aussi ses cachets.
Ça baisse jamais.
Ouais. On lui paye aussi ses cachets.
Ce qui embête Valou, on a bien compris.
Non, mais bon, ça monte de pas beaucoup en réalité, mais c'est juste qu'on veut être juste, donc on veut pas se tromper. Et c'est pour
parce que c'est le droit du travail en fait, c'est la loi.
On s'appelle entre producteurs, on s'appelle entre membres de Fédérap, même au sein de Fédérap, nos adhérents nous appellent pour demander ce genre d'infos très important.
Ah, ça, parce que Daz demandait justement comment on se tient courant, ça peut être aussi le rôle de gens comme vous, de se dire entre nous, là, dans le syndicat.
Et nous, on va regarder convention collective, on va appeler des contacts privilégiés à la SACEM, on va appeler nos avocats, etc., etc., pour donner les infos les plus justes possibles. Voilà.
Ah ouais, c'est vrai que, alors, je viens de me souvenir de ça, et désolé pour la petite erreur, mais lorsque je parlais des 6 mois avant et des 6 mois après, c'est pour les programmes. Ça veut dire que quand un artiste, donc sur le site de la SACEM, vous avez un onglet pour déclarer vos programmes. C'est quoi un programme ? C'est que demain, si vous avez une tournée de Zénith, vous pouvez dire que dans le Zénith de Lille, au Mans, ou dans tous les Zéniths, voici la tracklist des morceaux que je vais jouer dans votre salle. Mmh. Et ça, ben, bien sûr, vous avez 6 mois avant vos shows pour déclarer votre programme, et vous avez 6 mois après vos shows pour déclarer votre programme. Et en fait, la rétroactivité se joue sur le offline et le online, c'est-à-dire les plateformes de streaming ou les radios et télé. C'est-à-dire que vous avez 1 an pour la radio pour récupérer vos droits et 6 mois dans le streaming. Donc désolé Valou, c'est exactement... Je ne comprenais plus les 3 mois comment je les ai sortis,
aussi,
désolé.
Coup,
donc oui, c'est bien pour, pour déclarer vos programmes, les œuvres dans un cadre, dans un show, pour un show. Mais pour récolter vos droits d'auteur, la SACEM a mis en place donc une rétroactivité pour le offline, donc, qui est les radios télé, de 1 an, et pour le streaming, donc, qu'on appelle le online, de 6 mois.
Ouais, donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment effectivement se tenir au courant parce qu'en fonction du type d'exploitation de l'œuvre, ça change, des canaux, etc.
C'est
un univers hyper compliqué.
Et quand, par exemple, ouais, c'est un univers impitoyable, et quand on n'a pas déposé son titre et qu'il est sorti depuis plus de 6 mois, ce qui arrive à énormément d'entre nous parce qu'on est très pris, on a tellement de boulot, enfin c'est extraordinaire, surtout quand on est éditeur et producteur et qu'on a beaucoup de casquettes, on peut faire ce qu'on appelle un claim. Donc en anglais, une réclamation en français à la SACEM. Ils ne sont pas obligés, mais bon, il faut le tenter. On dit voilà, j'ai pas déposé ce titre-là.
C'est toujours mieux que rien.
C'est toujours mieux que rien parce qu'on peut le tenter, ce claim. Oui. Et en général, une fois sur deux, ils nous l'accordent en disant voilà, ce titre est sorti il y a 8 mois ou 1 an ou 1 an et demi. Malheureusement, j'ai pas pu le déposer. Est-ce que vous pensez que vous pouvez pousser la rétroactivité plus loin que 6 mois et ça prend un peu de temps, mais au final on
y arrive. Il peut y avoir un jeu d'influence, il y a des gens qui peuvent plus facilement plus facilement à leurs demandes,
comme dans tout, bien sûr,
dans leur catalogue. Ouais, je pense qu'il y en a, ils sont capables d'aller chercher 2 ans, 3 ans derrière, mais bon, respectons les règles de déposer son œuvre avant la première exploitation, j'y tiens en tout cas.
Mais là je vous écoute, je me dis, il doit pas y avoir un seul artiste dans le pays qui a vraiment 100%, qui touche 100% de ce qu'il devrait toucher.
C'est possible, oui. S'il est compositeur et auteur, Donc il a 100% sur une œuvre à la SACEM.
Ouais, mais ça veut dire que en plus de d'avoir fait toutes les déclarations en temps et en heure, de suivre, de se tenir informé des différents changements, machin, etc., il faut aussi qu'il soit avec son entourage bien synchrone
merci,
et tout.
Merci de le dire, Daz.
Ouais.
Parce que nous, on se bat tout le temps. Les artistes, ah non, j'ai pas besoin de producteur. Ah non, j'ai pas besoin d'éditeur. Ah non, j'ai pas besoin de manager. Ah bon?
Bah si,
parce que si tu fais tout ce qu'on fait, je te garantis.
T'as pas le temps de
faire
de
la musique. Pas,
voilà. Ouais. Ou alors tu vas créer du fast food et il y aura pas ton âme dedans. Il y aura pas le temps que ça prend de créer. Parce qu'en fait, son cerveau, il est soit en mode artistique, soit en mode business. Mmh. C'est très difficile de faire les deux en même temps.
Et rappelons que même si c'est tout à fait compréhensible de la part d'un artiste de tendre vers le plus d'indépendance possible pour tout simplement tirer le plus de fruits possible de son travail et donc notamment d'avoir des parts importantes sur l'argent, etc. Globalement, personne ne fait tout seul. Et après, il y a plein de modèles différents envisageables, mais typiquement la distribution, notamment quand elle est physique, personne ne fait ça tout seul. Un artiste, il ne peut pas gérer ça tout seul. C'est impossible. Donc en fait, il y a des domaines où c'est quasi obligatoire, tu n'as pas le choix. Et puis il y en a d'autres, à toi de voir si tu te sens les compétences, si tu es prêt à passer du temps, etc., pour gérer une partie ou pas. Mais les modèles hybrides, bien sûr, mais en fait, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que quasiment chaque artiste peut trouver son propre modèle. Il y a autant de modèles que d'artistes. J'exagère, mais il y a un peu un truc comme ça, quoi.
En fait, c'est important de le dire parce que souvent, on veut se caler par rapport à son voisin, mais l'esthétique que tu proposes, le genre musical que tu proposes ne peut pas s'adapter. Et pour moi, il faut vraiment que vous puissiez tester des choses et pas se retrouver avec un espèce de cahier des charges. Tu dois sortir ton clip 2 semaines avant, tu dois... Non, j'aimerais, en tout cas moi, c'est mon avis personnel, j'aimerais retrouver un peu cette spontanéité des années 90-2000. Bon, je fais le vieux, on parle comme ça, mais je trouve qu'aujourd'hui, voilà, il y a un peu moins cette spontanéité.
Après, c'est comme tout dans la vie, hein. Quand tu décides de construire une maison, tu peux la construire tout seul ou tu peux appeler des gens pour t'aider à construire avec. Et...
Ouais, mais ta maison, une fois qu'elle est construite, il n'y a pas un mec qui arrive par la fenêtre en disant hey, « Eh, au fait, j'avais dit que... »
J'ai des droits sur le chauffage.
Ce papier par là, c'est moi qui avais dit qu'il était cool, non ? Tu vois, c'est fou, en fait, comme c'est archi complexe.
Il y a des distributeurs comme Musique... Je l'utilisais au tout
Musicast,
départ.
Musicast, toi ?
Non. C'est un distributeur un peu comme DistroKid où tu...
iMusician.
iMusician, merci.
Et avant, c'était Zimbalam.
Voilà. Eh ben, iMusician, par exemple, là, tu parlais de « il n'y a aucun artiste qui a 100% des droits ». Par exemple, iMusician distribue ta musique sans te prendre. C'est les seuls qui font ça. En fait, tu payes une adhésion. Tu vas payer, je crois que c'est 500 balles l'année. Mmh. Et avec ces 500 euros-là, tu as le droit de déposer autant de titres que tu veux qui vont être donc distribués sur toutes les plateformes, et ils ne te prendront rien. Sinon, la plupart des distributeurs vont te prendre 15, 20, 30%, bien sûr. Mais attention, iMusician, moi j'en suis partie, parce que, alors effectivement, ils ne prenaient pas de pourcentage pour distribuer, mais il n'y avait aucun service.
Voilà.
Aucun service, ça veut dire qu'ils ne te mettent pas dans des playlists éditoriales. Enfin, il y a encore plein de choses qu'il faudrait...
On rappelle, dans le domaine de la distribution, t'as des je ne sais pas s'il y a des termes précis pour désigner tout ce qui est effectivement les DistroKid, iMusician, etc.
Que agrégateurs.
Les agrégateurs, voilà. Que tout le monde peut utiliser. C'est-à-dire que moi, demain, je sors un morceau, ça va me coûter 15 balles pour je ne sais combien de mois, etc. Et puis un tout petit pourcentage. Sauf qu'en fait, effectivement, il n'y a aucun service supplémentaire.
Combien de mois de quoi?
C'est-à-dire d'exploitation.
C'est-à-dire, je passe par un DistroKid.
Ouais.
J'upload mon morceau.
Ouais.
Eux, ils le diffusent sur toutes les plateformes.
Exactement.
Et au bout de 15 mois, il se passe quoi?
Eh ben, alors quand je pense que ça doit dépendre des agrégateurs, vous devez savoir ça. Soit ça part complètement du catalogue, enfin ça peut être enlevé des plateformes, soit
Donc le morceau,
soit tu dois repayer régulièrement.
Spotify,
En fait, c'est soit tu payes au morceau, soit moi j'avais fait cette option 500 perpétuelle. Euros par an pour iMusician et tu pouvais uploader autant de titres que tu voulais. Mais encore une fois, ces agrégateurs-là ne te fournissent aucun service. Ça veut dire qu'il y a des erreurs sur tes crédits. Tu peux appeler personne. L'histoire de pitcher, parce qu'il y a aussi le pitch que font les distributeurs toutes les semaines aux plateformes pour rentrer ton titre dans des playlists, ce qu'on appelle les playlists éditoriales, qui sont les playlists qui sont suggérées directement par Spotify ou Deezer ou Apple Music. Tu n'as pas ces services-là. Ces services-là sont quand même extraordinaires.
Ouais. Enfin, ce que tu auras avec des gros distributeurs, avec type Believe, Idol, Believe, etc.
Exactement. Believe, ils sont incroyables. Ils ont des accords avec énormément, des accords avec TikTok, ton titre rentre dans des trucs incroyables. Et ça génère quoi? Ça génère du stream donc tes revenus en plus.
Mais quand même, là, souvent, l'agrégateur va être un peu la première démarche du home studiste, par exemple, du mec un peu dans sa chambre, etc. Et plus on se professionnalise, plus effectivement on aura besoin de services supplémentaires. Et là, on s'orientera vers des services peut-être un peu plus costauds, mais qui ne sont pas accessibles à tout à chacun, quoi.
Exactement.
Si par exemple, on prend le cas de TuneCore, enfin même pour rebondir sur ce que Valou dit et qui est très important, les playlists éditoriales.
Qui est un agrégateur aussi.
Faut savoir que quand vous voyez un artiste qui a 5 millions, 10 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify, dites merci aux playlists. Si vous enlevez les morceaux qui sont dans des playlists éditoriales avec des 800 000 sauvegardes qui équivaut au nombre de personnes qui ont liké la playlist, qui veut se mettre à jour sur les nouvelles sorties, vous enlevez toutes les playlists éditoriales, tous les artistes retombent à 500 000 ou 1 million. Faut comprendre que les playlists éditoriales aujourd'hui ont un effet de levier mais énorme sur le nombre d'auditeurs. Je le vois en tout cas sur le catalogue guyanais, martiniquais ou guadeloupéen. Dès qu'un artiste comme Meryl, qui fait un très gros travail, Maureen en ce moment, c'est grâce aux playlists. En tout cas, moi, je le sais, je le dis.
Les playlists, elle a remplacé la radio.
Là, exactement, ce sont des plateformes de diffusion, mais énormes, parce que le gars qui est abonné à une playlist de rap, il va recevoir la notification qu'il y a de nouveaux titres, il aura des outils en fait pour dire que j'ai un nouveau morceau dans ma playlist. Donc, c'est vrai que TuneCore propose plus d'offres que DistroKid ou autre, mais c'est eux où il faut payer chaque année si tu veux que ton titre soit donc à surveiller. Moi, je vous conseille que quand vous renouvelez vos droits avec TuneCore, mettez une date tout de suite dans votre agenda, parce que si cette date est passée et que vous n'avez pas payé TuneCore, ils suppriment tout de votre catalogue.
Néanmoins, ils ont des personnes qui répondent.
Oui,
des vraies personnes. Parce voilà. que c'est, quand même, c'est une entreprise qui appartient à Bilib aujourd'hui, donc c'est français. Enfin, il y a des vrais gens qui prennent le temps, alors que pour d'autres agrégateurs qui sont du coup à l'étranger, bah forcément, c'est plus dur de contacter le service après-vente et du coup de régler le problème.
Ça, c'est cette notion de date de péremption là. Donc moi, je suis vraiment full béotien sur le truc, mais pour moi, j'étais persuadé qu'à l'époque, avant Internet et tout, j'avais un CD. Il était en magasin, je devais pas payer je sais pas qui pour que le CD reste dans le bac. Tu vas à la Fnac, il y a toujours des disques qu'on.
Ouais, mais c'est du physique.
Ouais.
Mais en fait, il y a des disques de toute la planète dans la Fnac.
Non, mais est-ce que.
Alors
est-ce
que sur aujourd'hui, en sur fait, Internet, il y a le disque de toute la planète.
Non, mais par exemple, est-ce que. Tu vois, je sais que quand t'as un supermarché, t'as un fournisseur qui te file des yaourts, une palette de yaourts, et à la date de péremption, le fournisseur il revient avec un camion, tu lui donnes les invendus et puis il s'en va avec. Mais dans la musique,
ça se fait, ça je sais pas ça.
Ouais, si, ouais, okay. Ouais. Dans la musique en physique, il y avait pas un gars qui de chez EMI qui arrivait à la Fnac avec un camion et qui disait bon bah filez-moi tous les trucs que vous avez pas vendus. Je veux dire quand ton album il était en stock dans le magasin, il y restait jusqu'à ce qu'il soit vendu, non? Enfin,
je sais pas comment ça se passe, mais j'imagine aussi, par exemple, je sais que pour les magasins de musique, c'est un truc qui fonctionne comme ça, où en fait, la marque va te dire, tu avances, tu payes le stock, tout le stock. Mmh. Et d'ailleurs, c'est terrible, parce que parfois, elles imposent un minimum à prendre. C'est-à-dire, ok, oui, tu veux nous, je dis une connerie, Gibson, Fender, n'importe quoi, j'en cite plusieurs pour pas avoir de problème. mais je sais que ça se fait.
Ils sont tous chez Thomann, d'ailleurs.
Tu vas dire, tu veux dans ton magasin physique avoir des guitares de notre marque, et bah, t'es obligé d'en prendre au moins 20. Si t'en prends pas 20, t'auras pas notre marque. Et en fait, le problème, c'est que le magasin est obligé d'avancer le stock, il paye les 20 guitares, et ensuite, c'est à lui de se débrouiller pour écouler le stock. Ouais. Donc en fait, les disques dont tu parles, bah en fait, le distributeur, lui, avait déjà vendu, entre guillemets, tu vois, physiquement au magasin, les disques. Après, c'est au magasin de se débrouiller. Enfin, si c'est
en
le
fait,
même
ouais,
modèle,
il y a plusieurs,
pour écouler les disques.
Parce que quand on parlait de la dernière fois avec Musul, Nick Fury et Faster J, Musul, il disait que il avait le nombre de livres qui étaient parti en librairie, mais qu'il aurait le vrai chiffre de vente une fois que les librairies auraient renvoyé les livres non vendus.
En fait, ouais, ça se passe ouais. Dans l'édition. Ça,
en fait,
ça,
c'est pour ça, c'est bizarre. En fait, il y a plein de
modèles suivant les business.
Il y a un truc qui est clair, c'est que normalement, enfin, là, je comprends pas ce que font les pouvoirs publics, mais enfin, uploader un morceau et le laisser dans un catalogue, c'est pas en prenant en compte le fait que c'est pas juste l'indexation du morceau, mais t'as carrément le titre. au niveau numérique. Donc allez, on va dire ça fait 5 mégas une chanson. Mm-hmm. Tu vas pas me dire que c'est le truc où les mecs à la fin de l'année sont obligés de le virer pour faire de la
ça,
place sur leur disque dur.
C'est ça.
Donc c'est de l'extorsion, on est d'accord.
Non, bah non, mais non, parce tu que payes même, pour le service.
Même la taille du titre, c'est hébergé sur un truc, ils payent
en plus,
le
ouais,
c'est leur modèle économique.
C'est dégueu, mais c'est
d'ailleurs.
Moi non, mais c'est super.
Moi je suis chez TuneCore, hein. Ça veut dire que je peux te donner une contrainte qui pour moi n'est pas une contrainte. C'est que au final, on participe aussi à une économie. Comme on le dit, quand on paye des taxes, c'est pour après que ça nous revienne avec des aides. En fait, c'est un cercle vertueux qui va nous revenir si la musique fonctionne. Et j'ai même envie de dire...
Oui, mais en fait, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus, parce que tous les autres qui payent et dont la musique en plus ne fonctionne pas, ils récupèrent même pas de...
Mais j'ai envie de dire, c'est pas grave. Ah, si tu analyses ton catalogue et que tu vois qu'il y a une musique au final qui plaît pas, mais vire-la au final. Enfin, aujourd'hui, je trouve qu'on rentre trop dans des règles qui, au final, à nous de remettre un nouveau système.
Mais t'imagines ce que tu dis, ça veut dire que, je sais pas, les mecs, ils font des titres, ils font des albums, et si l'artiste, c'est au cinquième album qu'il pète, il va se dire, bon, bah, je dégage le premier parce qu'en fait, il a pas marché, enfin.
Non, en général, s'il pète, mieux vaut pas qu'il enlève son ancien catalogue, parce qu'il y a de chances qu'il soit
plus
oui,
les gens vont découvrir. Ouais. Enfin, je dis ça, je conseille à aucun artiste de le faire, mais je dis que ça peut être aussi une raison de ne pas renouveler et de mettre de nouveaux morceaux et ce morceau-là tu
ou ne plus être en phase artistiquement par exemple
ce que j'allais dire voilà, tu peux aussi supprimer des titres qui ne correspondent plus du tout à ce que tu fais aujourd'hui et que tu as fait ou même des fois il y avait des paroles dans lesquelles tu ne te reconnais plus aujourd'hui et que tu enlèves bien sûr
alors ça c'est intéressant parce qu'on parle quand même du hip-hop les amis s'il y a bien un truc où les mecs ils assument pas les paroles qu'ils avaient dit quand ils ont sorti les premiers trucs c'est bien le rap quand même tu vois donc
ça peut arriver c'est vrai ça,
tout le temps tout le temps, même des fois, moi j'écoute des trucs, je ouh, oula, Kerry, oh, t'étais chaud sur ce morceau quand même. Hein.
Oui, mais il y a encore le morceau, tu vois.
C'est quand même... Ouais, mais je suis pas sûr que lui il l'assume encore. Tu vois.
Mais pour qu'on avance quand même un peu sur les structures, Leïla, t'es un peu notre fil rouge.
Je suis là.
D'autres grandes structures qu'on n'a pas évoquées, alors peut-être pas les premières où tu vas toquer à la porte, mais tu vois, je pense à, tu me dis, est-ce qu'elle est importante, je sais pas, mais le SNEP par exemple, c'est une structure importante
Bah oui, c'est une structure importante.
C'est quoi le SNEP?
Le SNEP, c'est un syndicat, déjà. Okay. C'est important de le savoir. C'est dans son nom, Syndicat National de l'Édition Phonographique. Donc, un syndicat dans la musique va regrouper une typologie d'acteurs de métiers. Donc, en l'occurrence, là, ça va être les producteurs de phonogrammes, les labels. Et le syndicat va défendre leurs intérêts auprès des pouvoirs publics, auprès des ministères, auprès du Centre National de la Musique, de tous les endroits en fait, où ces organismes peuvent avoir des intérêts. Donc pas que dans la culture aussi, mais dans le domaine de l'économie, dans le domaine de l'export aussi, parce que la musique française est écoutée partout dans le monde, donc il y a aussi des intérêts partout. Donc ça va vraiment être la mission première du syndicat, ça va être de défendre les intérêts de ses membres pour que ses membres aient les meilleures conditions pour faire leur métier.
C'est intéressant parce que vous faites des rap, vous avez dit on prend tous les corps de métier du monde du rap de manière générale et il y a d'autres regroupements ou syndicats qui eux par contre vont dire spécifiquement je m'adresse à ce métier-là.
Mmh. Oui, parce que en fait juste c'est des typologies d'entreprises qui ont des contraintes économiques qui sont vraiment propres à elles et donc historiquement, les syndicats existent même avant les fédérations comme les nôtres, parce qu'en fait, le SNEP, ça existe depuis 100 ans, en fait. Dès qu'il y a eu les premiers, et au début, c'était un syndicat du phonogramme, comme on en parle, la machine phonogramme, tu vois. Et après, ça évolue en fonction des années. Et au-delà de défendre ses intérêts, par exemple, tout à l'heure, on a parlé de convention collective. Le SNEP va négocier la convention collective, parce que la convention collective, c'est le texte de loi qui régit les conditions de production et de rémunération des artistes et de toutes les personnes qui contribuent en fait à la création de titres, de phonogrammes, de disques.
Donc ils vont essayer de défendre l'intérêt des producteurs au sein de la convention.
Bah oui, tu vois, les producteurs, ils ont intérêt à ce que les coûts de la production soient les moins élevés possibles. Donc en fait, quand il s'agit de négocier les salaires qui changent chaque année, peut-être qu'ils vont avoir un intérêt à ce que les salaires n'augmentent pas trop, parce que du coup, en fait, c'est ça qu'ils vont faire. Ils vont aller en convention collective et ils vont négocier que la convention collective évolue de la meilleure manière possible pour ses membres à elle. Donc ils vont avoir des intérêts à faire
les
évoluer
intérêts peuvent diverger entre le SNEP et les artistes, par exemple.
Ou bah, des représentants des artistes.
Oui, parce qu'en fait, du coup, les producteurs sont les employeurs des artistes.
Ouais,
donc en fait, il y a vraiment le patron. Et enfin, si on caricature le truc, dans la musique, c'est beaucoup plus différent parce que en fait, il y a vraiment une relation humaine qui est hyper abordante. Artistique, c'est pas je suis pas ton patron et toi tu t'es mon employé.
Snap, le Snap, ça serait l'équivalent du MEDEF. Je sais pas s'ils
aimeraient, mais peut-être.
En tout cas,
est-ce qu'on pourrait dire, c'est la question en fait de Dazer, ça, c'est Valou, peut-être tu peux nous en parler. Il y a des rapport de force dans la musique avec des intérêts à défendre et qui parfois ne sont pas les mêmes. Ouais, Leïla, tu veux en parler?
Bien sûr. Vas-y, Leïla. Bien sûr.
Bah, bien sûr. Je l'ai dit au début, c'est un gâteau, tout le monde a envie de se partager. Le gâteau rétrécit en plus d'année en année parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs, il y a de plus en plus d'artistes. Il y avait moins d'artistes il y a 20 ans. Aujourd'hui, il y en a énormément. Il y a de plus en plus de. Et c'est trop bien parce que ça reflète une diversité musicale. Mais du coup, en fait, il faut aussi se partager tout ça.
Parce que typiquement, l'argent mis à disposition, je prends l'exemple des subventions, etc., il n'augmente pas à l'échelle dans la même mesure que le nombre d'artistes.
En ce moment, il baisse.
Exactement.
Donc on se divise une somme, même parfois moins importante, on est plus à se la diviser.
Ouais, c'est ça. Exactement. Mais peut-être que, en fait, les règles avant, elles étaient plus faites pour une certaine typologie d'acteurs. Donc, en fait, il y avait les mêmes qui se partageaient les gros trucs. Mmh. Et qu'en fait, aujourd'hui, on leur dit, bah, écoutez, vous avez été bien pendant 40 ans. Maintenant, il faut un peu partager avec les autres. C'est aussi, c'est aussi des principes d'équité, en fait. Et il y a des règles aujourd'hui qui sont pas du tout équitables et qu'il faut faire évoluer vers l'équité. Mais en fait, quand t'as toujours fonctionner d'une manière, c'est un peu compliqué de rétrograder parce que toi, t'es dans ton truc, t'as des
exemples de choses qui sont considérées dans la profession comme pas tout à fait équitables ou en tout cas que certaines personnes considèrent comme pas équitables.
Bah, là, on ouvre un gros sujet, mais les plateformes de streaming, par exemple, la rémunération que font les plateformes de streaming envers les artistes. Les plateformes de streaming, chaque plateforme de streaming a sa propre manière de redistribuer l'argent. C'est pas du tout uniformisé par rapport à toutes les plateformes. Mais généralement, ça a été fait sous le principe du market-centric, c'est-à-dire que tout l'argent est récolté dans un pot commun de tous les abonnements, de toute la consommation de la musique, et ensuite est redistribué en fonction des parts de marché de chaque artiste ou de chaque genre musical. Et l'argent est redistribué comme ça. Donc toi, tu pouvais payer un abonnement 10 euros par mois. Et en fait, il y avait une partie de ton abonnement qui allait à Beyoncé, voilà, alors que tu n'écoutes pas Beyoncé du tout. Ouais. C'est le principe de la part de marché. Sauf que du coup, les artistes très indépendants qui ont beaucoup moins de stream que Beyoncé ou que d'autres
et
top artistes.
Avec une fanbase beaucoup plus engagée en plus et qui va plus consommer sur les plateformes.
Oui, mais qui serait peut-être moins nombreuse. Et du coup, ouais, en fait, dans les chiffres, tu as une part de marché qui est très minime. Et bah, forcément, tu t'y retrouves moins. Sauf que Beyoncé, elle a plein d'autres moyens d'avoir de l'argent. Elle est extrêmement. Elle a déjà une sécurité financière, alors que l'artiste indépendant, vraiment très indé, il ne va pas avoir cette sécurité financière. Donc, l'objectif que beaucoup de gens espèrent dans les plateformes de streaming, c'est que ça soit redistribué un peu plus équitablement.
Mais alors, qui fait pression auprès des plateformes de streaming? Là, on est dans la lutte.
Alors, attention, parce que Leïla parle du market-centric, qui est effectivement utilisé par Spotify, il me semble, mais on a été reçu avec Leïla chez Deezer il n'y a pas très longtemps.
Il parle du user-centric, mais
voilà,
mais c'est longtemps.
Ils nous expliquaient qu'eux, ils sont vraiment sur le user-centric. Ça veut dire qu'ils vont vraiment redistribuer l'argent
à ce que tu as vraiment
écouté. Mais ce qu'on aimerait, justement, c'est que c'est une uniformisation de ça en fonction de toutes les plateformes.
Après, si je dis pas de bêtises, Deezer ne l'a pas encore appliqué. Et ça fait au moins
ça fait au moins 5 ans
que j'en entends parler.
Bah, ils ont un fonctionnement.
Ah oui, ils s'appliquent déjà. C'est possible, hein, je veux pas.
On a passé genre une heure, ils nous ont présenté tous les trucs. C'est très, 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 très complexe.
Ouais.
Mais il y a aussi des paliers en fonction de si l'artiste est considéré comme professionnel, donc s'il a atteint un certain palier d'auditeurs. En fait, il y a plein d'autres. D'autres trucs qui rentrent en compte pour redistribuer l'argent qui est généré sur les plateformes. Donc c'est très 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 complexe et il y a des ingénieurs qui travaillent au sein des plateformes pour essayer de trouver la meilleure manière. Donc c'est quelque chose d'assez scientifique, je dirais. Mais il y a aussi tout un travail qui est fait pour essayer de chasser aussi toutes les personnes qui sont pas légitimes à demander cet argent mais qui sont pourtant dans la partie des bénéficiaires, les personnes qui achètent des faux streams, par exemple. Ouais, t'achètes des faux streams, forcément, ta part du gâteau, elle grossit, donc t'as plus d'argent, mais en fait, c'est pas organique, c'est pas vraiment légitime, c'est pas de la vraie écoute.
Oui, c'est illégal, même, en fait.
Oui, c'est illégal, clairement.
Donc, essayer de remplir une boule noire, et puis après, on va voir.
On en parlait, bien sûr. Ouais, donc, mais alors, du coup, est-ce que Federap, par exemple, peut essayer d'agir auprès des plateformes pour faire changer certaines choses ou
C'est ça l'objectif, en fait, d'une structure comme la vôtre aussi, c'est de permettre de faire avancer les intérêts des gens qui...
Vous pouvez aller voir Spotify et leur dire Spotify, ça va pas.
Bah, en tout cas, on y travaille, hein, c'est ce qu'on fait. On a des rendez-vous régulièrement avec les différentes plateformes, les différents organismes, et on essaye à notre petite échelle de faire bouger les choses. Mais c'est pour ça qu'on a besoin de plus en plus d'adhérents, parce que plus on va avoir d'adhérents, plus on va être fort en numéraire au sein de Fédérap, et plus notre voix va compter quand on va justement sur ce type de discussion.
Ce qui est intéressant, c'est que si on prend par exemple Fédérap, au sein même des adhérents de Fédérap, il peut y avoir des artistes qui ont des intérêts opposés. Parce que moi, je suis un Gims ou un Nino. Mais je m'en fous, moi, que les petits rappeurs indépendants, ils aient le truc. Je préfère prendre ma part à moi avec le market-centric et tout le monde est content, tu vois. Donc, ça peut arriver qu'au sein de la structure, déjà, il y ait des intérêts divergents.
Ça peut arriver, clairement. Après, c'est une structure démocratique. Donc, en fait, chaque membre content, égale une voix et on se réunit, on parle de sujets et chacun s'exprime. Mais après, c'est la majorité des gens qui ont décidé de s'impliquer qui
oui, parce que va aller vers ça. Comment sont prises les décisions? C'est des votes, en fait, qui sont soumises.
On a un CA et puis on fait... Cette année, on va faire de plus en plus de rendez-vous avec tous les membres, que ce soit en visio, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a des membres qui viennent d'un peu partout en France.
C'est une chance.
Oui, c'est une chance. Donc, c'est vrai que là, on va privilégier beaucoup les visios, les visioconférences, et pour pouvoir déjà se réunir entre nous, parler de plein de sujets qui touchent les adhérents et prendre effectivement des décisions. Et puis, on a les réunions comme une fédération normale avec un CA. D'ailleurs, c'est demain pour nous. avec élire de nouveaux membres du CA, avoir des membres qui viennent aussi de secteurs différents. Certains vont venir du live, d'autres vont venir de la production phonographique, d'autres vont venir d'autres avocats spécialisés musique, etc. Donc, on essaye d'avoir un petit peu la crème de la crème dans les différents domaines qui touchent à la musique. Donc, ça va de l'avocat au producteur, au manager, au tourneur, au booker, à l'artiste indé, à l'artiste tout court.
Tu veux dire quelque chose, Léa?
Ouais, je voulais dire que le meilleur exemple, en fait, de ce qu'on a réussi à faire par l'implication de nos membres, c'était peut-être Andy. Parce que.
C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, vous collaborez régulièrement.
Bah oui, il est dans le conseil d'administration de Fédérap, comme Valou est dans le conseil d'administration de Fédérap au titre de présidente. Et comme je l'ai dit, en fait, c'est nos adhérents qui nous remontent les problématiques qu'eux, ils rencontrent sur le terrain. Moi, je ne suis pas productrice, je ne suis pas manager, je ne suis pas artiste, je ne sais pas c'est quoi d'être artiste. Par contre, je sais que j'ai des personnes qui sont de confiance et qui rencontrent ça tous les jours. Et donc, ils peuvent me dire, parce que moi, je connais les institutions et du coup, je peux aller les voir en leur disant, bah, ça ne va pas. Et donc, c'est grâce à ces témoignages-là que nous, on va porter des combats, qu'on va essayer d'améliorer certaines choses. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Andy il y a plus d'un an et demi. Il a été intéressé par Fédérap et du coup, il m'a tout de suite montré les problématiques que lui rencontrait sur son territoire. Et effectivement, moi, je ne suis pas guyanaise, je ne sais pas ce qui se passe sur le territoire guyanais, mais c'est vrai que quand quelqu'un te le dit, bah, tu as envie de changer les choses parce qu'il y a énormément d'inégalités. Et donc, on a travaillé depuis un an et demi à changer ça. Donc déjà, dans un premier temps, Andy a été élu au conseil d'administration et donc tous les autres membres du conseil d'administration ont vraiment compris l'importance de ces combats et on a dit bah ça va être le combat un des combats prioritaires de Fédérap dans les années à venir. Et en un an, on a réussi à faire énormément de choses pour les territoires ultramarins, les Guyanais, les artistes guyanais et guyanaises. Et peut-être que tu...
Fédérap, on reste pas dans les bureaux. Il faut savoir que Leïla, elle s'est déplacée, elle est partie en Guyane avec Andy pour aller sur le terrain, se rendre compte réellement des problématiques. Qui fait ça? Quel fédé fait ça? C'est-à-dire qu'elle a pris de son temps pour partir en Guyane, aider les Guyanais, les informer, etc. Enfin, on est vraiment des gens de terrain.
C'était une de mes questions. Est-ce qu'il y a l'équivalent de Fédérap pour d'autres esthétiques? C'est une fédération du rock, j'en sais rien, de pop,
ouais,
etc.
C'est bien sûr. Ouais. Il y a la Fédé Métal pour le métal. Okay. Il y a Technovol pour les musiques électroniques. Il doit y en avoir aussi pour la musique classique, mais du coup, on travaille pas trop avec eux. Comment?
Il y en a une autre, mais j'ai oublié, dans le rock.
Non, là, le rock, c'est pas trop mon esthétique. C'est vrai que... j'ai envie de dire aussi, n'attendez pas forcément sur une fédération ou une association, soyez vraiment porteur de projet, et quand vous allez rencontrer ces gens-là, ça va déjà faire écho. Vous êtes déjà en train de travailler sur des problématiques, vous allez rencontrer Fédérap ou d'autres fédérations, et là, en fait, vous serez écouté,
vous serez pas juste en train de vous plaindre. Moi, je pense que je me suis pas plaint envers Leïla, envers Federap. J'ai juste appliqué, enfin, j'ai cité des constats. Mmh. Et je pense qu'il faut vraiment arriver avec un dossier. Qu'est-ce qui te dérange quand tu produis de la musique? Qu'est-ce qui ne va pas? Vraiment faire un état des lieux de ta situation. Moi, je le recommande. Et comme ça, tu vas tout de suite savoir vers qui t'adresser. Et je me rends compte que, par exemple, si je prends mon cas, en 3 ans de collaboration avec le SNEP, ben, ils m'ont nommé récemment le représentant officiel du SNEP pour les régions Guyane et Antilles. Et c'est là que je me rends compte que jamais j'aurais cru être un représentant du SNEP.
Oui, parce que du coup, t'es passé du mauvais côté, t'es passé du côté des patrons.
Ben là, je suis passé ouais, dans le côté où on entend ce qui va se dire pour
l'année. C'est le syndicaliste qui est devenu cadre, ok.
Mais on est obligé au final, parce que c'est vrai qu'en Guyane, si on doit parler de ce département, on a une diversité, mais on a une richesse culturelle énorme, mais tellement juste au niveau de l'export pour l'industrie musicale française, on a de quoi toucher, je pense, presque tous les pays du monde. Et je le dis vraiment en toute humilité, à savoir qu'en Guyane, il y a 40 langues parlées. Il y a 40 langues officiellement parlées. Je ne parle pas de dialecte ou de langue du village. Hein. Je parle vraiment de langues officielles avec des cultures et tout. On est le seul département de France à avoir 40 langues, une richesse culturelle, mais énorme en fait. Et c'est vrai que généralement, la puissance d'un pays se reflète souvent par sa culture.
Mmh. On peut parler d'ailleurs un peu de la Guyane, parce que c'est vrai que dans le domaine musical, on a souvent accès aux musiques un peu plus antillaises, par exemple. C'est vrai qu'on connaît un peu mieux. Typiquement, bah, le zouk, c'est quand même un truc hyper important.
Merci, Kassav.
Bah oui.
Mais les Guyanais font du zouk aussi, hein.
Pardon? Oui, mais historiquement, en tout cas, ça vient des Antilles. Après, ça a touché toute la Caraïbe. Ah, les Guyanais le font aussi, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est quand même un territoire qu'on connaît un peu moins pour sa musique. Quelle spécificité? Oui, tu citais quelques artistes guyanais tout à l'heure. Tu peux nous en dire quelques-uns à nouveau?
Eh ben, on va citer les artistes en développement qui sont Sansandre, Sikem, Vensi, El Jena, qu'on a reçu d'ailleurs pour la France Music Week avec Federap, parce qu'il est adhérent Federap. Mais tellement de talents, Poplan, Chinyman. En fait, les artistes émergents de Guyane sont noyés par les artistes confirmés des Antilles. Je peux le dire. Et c'est pas de leur faute, hein. Ils méritent leur place, loin de là. Mais les médias surexposent les artistes antillais, qui fait que le catalogue guyanais est inexistant. Je vais vous donner un chiffre. Le top 3 des artistes guyanais, donc c'est Bambi, Jaina King et Fanny G. Ils sont tous environ à des 800 000, 500 000 auditeurs par mois. Le quatrième, il est à 74 000.
Ah ouais, il y a un gap énorme.
Le quatrième qui écrase tout en ce moment, qui s'appelle Sansand, je vous le recommande, il a que 74 000 auditeurs. Comment voulez-vous qu'ils puissent séduire un producteur, des partenaires? Il y a un fossé énorme sur le catalogue guyanais, et aujourd'hui je me prononce vraiment comme un acteur guyanais. Je n'ai rien contre mes collaborateurs ou collaboratrices antillais, bien sûr, mais d'abord, en tant que guyanais, je souhaite structurer ma filière, je souhaite travailler avec les locaux pour qu'on puisse travailler avec l'extérieur.
Alors, ouais. les chiffres dont tu parles, c'est en plus les chiffres des plateformes.
Oui.
Donc quelque part, on peut aussi dire que bah, ça n'a aucune valeur, en fait. C'est quand même incroyable que toute l'industrie regarde ces trucs-là, alors que c'est des métriques. Franchement, qui est allé vérifier ce truc-là? En fait, on n'en sait rien, tu vois.
C'est un indice. Est-ce qu'il suffit? Certainement pas. Ça reste un indice, j'imagine.
C'est de l'algorithmie, en fait. Donc, concrètement, moi, je te mets une variable dans le code qui dit si ça vient de Guyane, tu me divises le truc par 10, et en fait, personne ne saura, et les chiffres ne montreront pas, tu vois.
Bah, après, on va dire, les chiffres aujourd'hui, si on reste sur le streaming, c'est un indicateur pour savoir combien je vais te donner en avance. Imaginons, tu
vois. Oui, mais en fait, tu vois. Ce qui est incroyable, c'est que c'est un indicateur qui est, pardonnez-moi l'expression, sorti du cul de Spotify ou de Deezer sans aucune.
Non, parce que y a pas
de métrologie, tu vois. Tu vas dans une station service, tu prends une bouteille de 1 litre, tu mets 1 litre à la pompe, et à la fin, t'as 1 litre pile dans ta bouteille par rapport à ce que t'as versé, et ça t'indique exactement le volume que la pompe t'a livré, tu vois. Les métriques, là, c'est géré par des boîtes américaines, boîtes...
Ouais, en théorie. Après, moi, je connais pas les arcanes. Il faudrait peut-être
aucune valeur, en fait.
Il faudrait des enquêtes sérieuses, etc. Mais en théorie, quand même, un stream, déjà, c'est, on sait à quoi ça correspond. C'est 30 secondes d'écoute minimum sur un.
Bah oui, mais 31. Autant aller à 31.
Il faut dépasser le 30. Donc déjà, on sait que ça devient une écoute. Donc, à partir du moment où, voilà. Ça, déjà, c'est une première information. Ensuite, je suis d'accord de dire, par exemple, que c'est c'est un chiffre compliqué à maîtriser parce qu'effectivement il y a l'algorithme qui rentre en compte, comment tu pousses des morceaux, etc.
Parce que en fait,
oui, mais après regarde juste, pardon, Valou par exemple, ou je sais plus si c'était Andy, a parlé de l'importance des playlists éditoriales. Et là par exemple, on voit l'impact en réalité des streams et comment une plateforme est capable de pousser un morceau et ça a une répercussion en fait aussi culturelle et etc.
Et on sait exactement tous les problèmes qu'on a avec les playlists éditoriales, mais notamment chez Spotify.
C'est pour prendre un exemple. Ouais. Un autre exemple, c'est évidemment qu'il y a aussi la recherche, enfin l'algorithme, etc. Mais il y a aussi une grande partie des utilisateurs qui tapent un nom directement pour écouter un morceau. Ils ont envie d'écouter ce morceau, ils tapent le nom. Et il lance la lecture. Ça, je pense aussi, c'est un chiffre qui a quand même une certaine valeur, par exemple, tu vois, de se dire, ben, il y a des personnes qui ont cherché mon nom, qui ont voulu m'écouter, etc. Donc, je pense
que c'est-à-dire que pour moi,
c'est noyé dans plein d'écoutes variées. Ben ouais. Est-ce qu'il faut prendre au pied de la lettre le chiffre? Est-ce que ça veut dire que 100 000 personnes exactement l'écoutent? Est-ce que ça veut dire que autant, proportionnellement, autant de gens iront au concert, etc.? C'est plus complexe que ça. Ben pour oui. Autant de là à dire que c'est un chiffre.
Il y a des gens qui l'entendent et il y a des gens qui l'écoutent.
Ouais. Mais de là à dire que ça n'a aucune valeur.
Non, en fait, ce que je dis, c'est que c'est des chiffres qui sont transmis par les plateformes elles-mêmes. Donc, en fait, c'est fou que ça soit ces trucs-là qui fassent la pluie et le beau temps, alors que c'est validé par aucun organisme officiel qui surveille ces métriques-là.
Bah, si, le Snap fait ça.
Ça voilà, alors, mais alors, ils font comment? Ils vont voir Spotify. Spotify leur donne, tiens, voilà le ticket de caisse de toutes les écoutes du mois dernier. Merci, monsieur. Et puis, c'est terminé. Enfin, c'est quoi le, est-ce qu'on a un accès directement au serveur pour vérifier des choses ou quoi? Non, je pense pas, parce que c'est une boîte noire, en fait, le.
Pas pour le
je
moment.
Je pense que mais... c'est assez réglementé, quand même.
Oui, c'est bien réglementé, hein. C'est...
Ouais. Et ça évolue tout le temps aussi. Bon, après, vous pourrez inviter nos collègues du Snap qui vont probablement mieux vous expliquer que nous, parce que.
Faudrait qu'on fasse ça.
On voit ça de loin. C'est très intéressant, hein. Franchement, ouais. C'est très, très, très intéressant. Et, c'est comme ça que, en fait, des classements des ventes sont aussi faits, donc quels sont les albums les plus vendus.
Oui, les certifications
et après,
Snap,
voilà,
etc.
Vois, et après ça permet une certaine reconnaissance de l'œuvre. Et aujourd'hui, par exemple, les certifications, elles sont basées sur le nombre de ventes et le nombre de streams.
Et téléchargements.
Avec l'équivalent. Et du coup, en fait, par exemple, qui a décrété que, alors, je ne sais plus, le disque d'or en France, c'est quoi? C'est 50 000 ventes
15 000.
15 millions.
15 000 ventes et 15 millions de streams premium.
15 millions de streams. Mais tu vois, pour le single d'or.
Tu veux dire sur l'équivalent, etc. Ça, par exemple, c'est un truc qui est renégocié régulièrement.
Oui, oui. Ouais, là, mais en fait, ça c'est des personnes qui, c'est leur métier de d'évaluer ça et de faire la meilleure interprétation possible de ce qui se passe sur le terrain et de comment mettre en valeur les artistes.
En fait, à un moment donné, le disque d'or en France, c'était 100 000 ventes physiques. Alors, j'entends que le marché physique, il a dégringolé.
En 2006-2007, c'était ça.
Même avant, ouais.
On parle vraiment plus en single qu'en album. De moins en moins d'artistes sortent des albums ou des EP. On est sur une culture du single. Et donc, c'est pour ça qu'on a déterminé que c'est 15 millions de streams pour avoir un single d'or. Et aujourd'hui, toute l'industrie ne parle qu'en single d'or ou single de platine ou même de diamant.
Ouais. 15 millions.
Mm. 50 millions pour diamant. Single.
Ouais. Mais je suis pas assez vrai habilité à dire pour le calcul est-ce qu'il paraît pertinent ou pas, etc. Après, est-ce que c'est des chiffres qui, enfin, c'est discuté par exemple l'équivalent? Est-ce qu'il y a plusieurs structures qui discutent en elles-mêmes en disant non, attends, je pense qu'il faudrait, ouais, ça se passe comme ça.
C'est discuté, c'est sur le site du Snap, hein, vous tapez Snap Music, tout est bien expliqué, c'est bien clair, les conversions sont claires, les équivalents sont clairs. Et voilà.
Par exemple, qui a décidé que c'était à la 31e seconde? Pourquoi pas à la 61e? Pourquoi
ça,
pas?
Ça, c'est une bonne question. Je sais pas.
Enfin, je veux dire, justement, on est dans l'arbitraire à mort,
c'est
en fait.
C'est pour ça qu'il y a des commissions à la SACEM. Moi, je fais partie de la commission aide à l'autoprod. T'as une commission, par exemple, qui s'appelle la commission variété, commission des variétés, qui prend très souvent, bon, qui se réunit très régulièrement et qui établissent, alors, il y a le sujet du stream, mais il y a énormément de sujets qui sont décidés au sein de ces commissions. La commission des variétés, la commission égalité des chances. Il y a énormément de commissions à la SACEM qui, justement, s'occupent de décider de tous ces sujets-là. Et j'imagine au Snap aussi, c'est la même chose, pour décider de tous ces sujets. Mais pour revenir sur ce que tu disais, Daz, tu n'imagines pas à quel point le business de la musique est basé sur le nombre d'auditeurs par mois sur Spotify qu'a un artiste, c'est-à-dire que c'est limite la monnaie d'échange. Mmh. Quoi que tu veuilles demander, t'es artiste ou t'es producteur d'artistes ou t'es manager d'artistes, quelle que soit la collaboration que tu veux demander avec un autre artiste, admettons que tu veuilles un feat avec quelqu'un de déjà très établi, que tu veuilles un deal de distrib, de licence, peu importe, avec une major, que tu veuilles un contrat de tournée avec un tourneur, un producteur de spectacle ou un contrat de booking, la première chose que la personne va regarder, c'est ton nombre d'auditeurs par mois sur Spotify et le nombre de streams que tu fais. Est-ce que tu as un single qui a fait au moins 1 million ou plusieurs singles ou est-ce que tu as fait... Voilà. Donc, on est sans arrêt Et c'est pour ça que les chiffres sont si importants et c'est pour ça qu'effectivement beaucoup de gens trichent, parce que c'est la seule façon aujourd'hui d'être crédible finalement, et plus personne n'écoute de musique, c'est malheureux.
Mais on faisait comment avant alors du coup ? Avant c'était des gens qui se téléphonaient pour savoir si tel artiste ça marche, qu'est-ce que t'en penses ?
Avant fallait avoir des vrais contacts.
Fallait disquaires aussi et tout comme ça, et tout savoir comment ça c'est cool.
Fallait venir en studio, ressentir la vibe. Mmh. Effectivement, comme tu disais Andy, on a perdu ce côté spontanéité de la musique, faire de la musique parce qu'on aime la musique. Aujourd'hui, plus personne. La première chose que tu vas regarder, combien d'abonnés TikTok, combien d'abonnés Insta, combien d'auditeurs. C'est uniquement ça qu'on prend en compte. On regarde même plus YouTube, puisque bon, c'est malheureusement il y a de moins en moins de personnes qui regardent les clips, qui regardent autre chose sur YouTube.
Mais ils écoutent de la musique. Néanmoins,
dans certains territoires, YouTube est le premier média où les gens écoutent de la musique.
Ah, et en fait, c'est dans le monde. Hein.
C'est la première plateforme.
Dans le monde, c'est la première plateforme.
Parce qu'ils adhèrent pas aussi. Ouais, plateforme. Ils adhèrent pas, tu sais.
Bah, on a l'exemple parfait avec la Guyane, en fait. YouTube est hyper utilisé comme mode d'écoute par la population. Les artistes font un gros travail sur YouTube aussi en mettant encore des clips là où peut-être des artistes d'ici ont un peu abandonné le truc parce que plus personne regarde des clips. Mais là-bas, ça reste hyper important. Sauf que les vues YouTube aujourd'hui, elles sont presque pas valorisées, en fait. Donc, c'est là aussi où il y a des inégalités, et on en revient aux inégalités entre l'Hexagone et les territoires ultramarins. C'est que, en fait, l'industrie française va regarder les artistes par le même biais. Donc ils vont regarder les écoutes sur Spotify, ils vont regarder ça. Mais en fait, on ne peut pas regarder les artistes des territoires ultramarins de la même manière qu'on regarde les artistes de France hexagonale, parce qu'il n'y a pas les mêmes... Ils n'ont pas les mêmes cartes en main.
En fait, ouais,
Spotify est arrivé en 2021 dans les territoires ultramarins. Donc les gens n'écoutent pas Spotify parce que ça fait 4 ans que Spotify est là, alors que nous, ça fait, je ne sais pas, 10 ans. Donc forcément... Donc nous, on fait tout ce travail-là de aussi sensibiliser l'industrie à... Bah en fait, il y a des Français comme nous qui font de la musique superbe et juste, ils n'arrivent pas à rentrer dans votre vision parce que en fait, c'est pas la même typologie d'artiste, c'est pas les mêmes genres, c'est pas les mêmes langues parfois, c'est pas les mêmes modes d'expression. Et donc, il faut aussi s'y intéresser parce qu'au final, on est tous Français et donc on fait tous partie de l'industrie musicale française. Et ces artistes-là peuvent apporter des choses à la France que... des artistes de France hexagonale ne pourront peut-être jamais apporter, parce qu'il y a une diversité de langues, de genres musicaux. Il y a des pays frontaliers que nous, on n'a pas. Moi, le Brésil, c'est pas à 500 km de Paris, hein. Pourtant, c'est à 300 km de Cayenne.
La France est le pays avec la plus grande frontière avec le Brésil.
Exactement.
Via la Guyane.
Et le Brésil est le 9e marché mondial de la musique, donc bon.
Mais du coup, ça, là, ce genre de préoccupation... Est-ce que ça serait pas normalement un niveau étatique de le gérer ? Enfin, c'est pas au ministère de la Culture de faire ce travail-là, justement, de représentation juste et équitable de tous les styles, que tous les styles soient représentés, que tous les territoires soient représentés. Enfin, là, vous faites un travail qui est littéralement du service public, en fait. Ça devrait être fait par...
Oui, c'est... On préfère parfois ne même pas y penser. Parce qu'on ne sait même pas comment on fait pour trouver la force de le faire. On le fait bénévolement.
On n'est pas payé pour le faire.
On n'est pas payé pour le faire, mais on sent tellement une... Moi, en tout cas, je ressens tellement une inquiétude.
Fait des raps, c'est purement bénévole.
Oui.
Ah oui. Et c'est...
C'est bien de le préciser.
Oui, bien sûr.
Mais ce qui est bien en plus, c'est que...
Mais plus on sera, moins ce sera peut-être bénévole. On aura des fonds, des choses.
Venez adhérer.
Voilà, pour l'instant, on a... pas du tout les moyens de se payer.
Et tout ce qu'on a fait déjà en n'ayant pas de budget, c'est quand même assez phénoménal. Hein,
et vous pouvez par contre bénéficier dans votre action de subventions, des choses comme ça, pour vous aider un peu. Typiquement, vous faites des voyages en Guyane pour accompagner Andy, etc. Faut bien payer ce voyage. Est-ce que vous pouvez avoir des aides, des choses
comme ça ? On a été invités gracieusement par la collectivité territoriale, donc merci à eux. Mais effectivement, il y a certaines subventions qui aident les fédérations comme les nôtres, parce qu'en vrai, on n'a pas du tout, on vend rien, donc c'est un peu compliqué, à part l'adhésion, mais nous on a choisi de la mettre à 40 euros par an, parce que pour nous c'est important que, et même si on pouvait, on le mettrait à zéro, mais juste il faut un peu qu'on ait des fonds, quoi. Mais parce que pour nous c'est important, en fait tout ça c'est de l'information, ça devrait être gratuit pour tout le monde, en fait tout le travail qu'on fait d'information, d'aider les personnes, etc., de les représenter, ça devrait être gratuit, parce que c'est un droit, en fait, de savoir le monde dans lequel on évolue. Et c'est un droit aussi de s'engager politiquement, défendre ses intérêts, c'est un droit. Donc on a décidé de mettre un tarif relativement bas pour que ce soit accessible au maximum de personnes qui le souhaitent, d'adhérer à Fédérap, du coup 40 euros par an, ça fait quelques euros par mois au final, tu vois. Et c'est vrai qu'on fait un énorme travail de service au-delà de toute la représentation qu'on fait, qui est pas forcément visible de l'extérieur, parce que moi, quand je vais faire un rendez-vous avec le CNM, quand je vais faire un rendez-vous avec le SNEP, je vais pas faire forcément une page pour raconter ce qui s'est passé, parce que c'est aussi des échanges qui peuvent être confidentiels, où il y a pas forcément quelque chose qui aboutit. Mais on fait des webinaires, on fait des rencontres, on fait des newsletters. Tout à l'heure, t'as demandé comment on fait pour s'informer. Nous, on envoie toutes les deux semaines une newsletter avec quel sub vous pouvez demander dans le mois qui vient, quelles sont les formations intéressantes que vous pouvez suivre, quels sont les événements auxquels vous pouvez vous rendre pour vous informer, quelles sont un peu les actualités de l'industrie musicale. On a un groupe WhatsApp dans lequel on échange des bons plans, on se fait des passes-dés. Donc ouais, en n'ayant pas grand-chose, enfin en ayant juste notre motivation et nos gros cerveaux, on y arrive.
Concerts,
ouais.
On a produit un concert pour la Paris Music Week, France Music Week au mois de juin, qui a été financé par le CNM, et le CNM nous a contacté pour le faire, nous a remis on a fait un super concert de rap.
On me dit, tu voulais tout à l'heure, par contre, tu étais parti sur la Guyane.
C'est vrai que, après, ça se complète, tout ce qu'on dit. C'est même repartir de la base, c'est que même Fédérap, en avril dernier, du coup, il y a eu les premiers états généraux de la musique en Guyane. Et moi, je ne me voyais pas venir seul, en fait. J'ai appelé, j'ai présenté Fédérap, j'ai présenté Leïla, et je lui ai dit, il faut qu'elle vienne. Des acteurs comme Fédérap doivent venir pendant ces réunions. Où c'était depuis 9h jusqu'à 13h. C'était super intéressant, mais au moins ils ont compris ma démarche. Ils ont invité Fédérap alors qu'ils ne connaissaient pas du tout. Donc on a vraiment cette envie de se structurer, de ramener des acteurs comme Fédérap et comme tant d'autres. Mais au final, ça vient toujours d'une idée. C'est venu de moi, en fait. C'est que si je mets pas en place des connexions...
Oui, ça va pas se faire.
En Guyane même, on pense pas parce que ça a l'air tellement loin. On se dit, mais qui on peut contacter pour faire venir et tout. Et au final, le fait de ramener Fédérap, il y a eu au moins une dizaine d'adhésions en même pas une semaine parce qu'il y a un réel besoin dans ces territoires. Et par exemple, le travail que je fais avec le SNEP, il y a un an, on a pu mettre en place le Top Radio Outre-mer où tous les mardis, maintenant sur Instagram, le SNEP, le compte officiel du SNEP, publie le Top Radio Outre-mer. Comme ça, on rentre pleinement dans cette industrie musicale française. Les labels comme peut-être Universal, Sony, Warner peuvent regarder une visibilité sur ces talents. Et c'est là où la complexité des Outre-mer est, c'est que on n'est pas pleinement dans la France hexagonale, on est les Outre-mer. Ouais. Donc ça fait un business, mais moi je suis ok avec ça, mais mettez en place du coup un circuit qui soit adapté à ces territoires. Si vous voulez pas pleinement nous inclure, on n'a pas de souci, mais faites en sorte qu'on ait des circuits de production, des circuits de showcase, de concerts, créer une économie.
Mais alors là, c'est le cas par exemple quand on parle du cas des Antilles avec notamment pas mal d'artistes qui viennent de Martinique et de Guadeloupe qui pètent en fait en France métropolitaine. C'est-à-dire quoi, que aux Antilles, eux, ils ont ces structures-là en place, ils ont ce truc-là, ou c'est aussi un territoire qui est quand même mis de côté par rapport à...
C'est l'œuf ou la poule, il y a les structures.
Non, ils sont comme nous à ce niveau-là.
Ah ouais.
Ils sont comme nous, c'est juste que faut savoir que Kassav a quand même... En fait, c'est comme dans le sport, j'aime prendre l'exemple d'un sport. Teddy Riner, Guadeloupéen, champion olympique, champion du monde, mais il a marqué les esprits pour les jeunes Guadeloupéens. C'est possible. En fait, oui, faut comprendre ça, ouais. Que quand on a une référence, c'est possible. Donc quand il y a eu Kassav pour les Antilles, c'est un exemple de réussite. Quand il y a eu Kalash en 2015, été le premier Antillais, aussi, ouais. Admiralty l'a eu, mais il n'y a pas eu cet effet médiatique comparé à Kalash. C'est quand même bien de le souligner. Même Chris a eu aussi une signature chez Universal. Mais Kalash a été vraiment l'artiste qui a montré que c'était possible en 2015, la première signature d'un Antillais martiniquais chez Capitol Music. C'est pas n'importe quoi. Et du coup, ça donne encore des exemples pour la Martinique, pour les Antillais. Et malheureusement, nous, en Guyane, on a nos artistes, mais ça n'a pas eu l'impact national, européen, international, comme Kalash avec Mwakamoun, Fit Damso. Laptop de Kalash Fit Maureen, Meryl avec le motif, avec, parce que Meryl c'est une grosse bosseuse. Toutes les top lines, les écritures qu'elle a pu faire en studio, elle a écrit pour elle a écrit pour Matt Pokora, je crois. Elle a écrit pour Soprano, elle a écrit pour pas mal de gens qui sont déjà installés. Donc en fait, il y a des modèles de réussite. En Guyane, simplement, nos modèles de réussite sont sont minimes. Ouais. C'est minime comparé à ce que proposent les Antillais. Et il y a aussi autre chose que je voulais dire, c'est que Spotify, ils ont créé Dancehall Station et Zouk Station en 2021, lorsqu'ils ont été disponibles dans les Caraïbes et en Guyane. Dancehall Station, à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus de 70% de musique chata. Mmh. Et j'aimerais le dire, c'est que le dancehall, c'est une grande famille comme le hip-hop. Dans le hip-hop, il y a du rap, il y a de la drill, il y a de la trap, il y a, ouais. y a voilà. Mais en fait, comment ça se fait que dans la playlist Dancehall Station, il y a plus de 70% ouais. de chata? C'est-à-dire que le Marseillais, le Bordelais qui veut découvrir ce nouveau genre va croire que le dancehall égale chata. Mm. Alors qu'il y a le bugle, il y a le ragamuffin, il y a plein de genres. Comme je le dis souvent, pour moi, le dancehall, c'est la petite sœur du hip-hop. Mm. C'est le petit frère
est-ce
du hip-hop.
Est-ce que c'est parce que le chata bénéficie aussi d'une exposition médiatique récemment, qu'il y a un engouement et...
Totalement. Ouais, c'est sûr. Mais imaginez Hip-Hop Station où il y a que de la drill, c'est pas drôle.
En vrai, c'est ce qui se passe.
Quand il y a eu par exemple la Jersey,
ouais.
la Jersey, tout le monde en faisait, Kershak, Tac, les phénomènes, mais ça s'est vite un peu estompé. Mais les playlists hip-hop sont beaucoup plus importantes que les playlists dancehall. Oui, nous, on n'a qu'une playlist dancehall.
C'est qu'il y a énormément de playlists dans, hip-hop
sur Spotify. Ouais. Apple Music, on a Afrobeat. On est mélangé dans les musiques plus, africaines. Il y a que Deezer.
C'est la catégorie musique du monde.
Voilà, musique du monde. Il y a que Deezer, le cocorico français, qui a fait un très gros travail de playlist éditoriale en mettant en avant vraiment toute cette esthétique.
Bon, ça fait plus de 2 heures qu'on discute.
Waouh.
Et il y a plein de sujets dont on pourrait encore parler. Et même, alors là, on part encore sur autre chose, mais on parle des territoires, des outre-mer. Mais c'est vrai que par exemple, on peut parler de la Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de la Réunion. Moi, c'est vrai que je connais assez peu c'est les productions musicales, etc. Quel est le maillage aussi d'un point de vue structurel, etc. sur ces territoires, la présence de la musique, etc. Est-ce que le CNM est sur place? J'en sais rien. Bon.
À la Réunion, oui, c'est ce qu'on disait.
On
tout
dit
tout à l'heure.
À un super média qui s'appelle Rebel Show 97 dans lequel il fait des live Twitch et okay. dans lequel il met en avant tous les artistes 9-7.
Ah, donc il déjà, est streamer aussi.
Et oui, ouais.
C'est la concu.
Qu'est-ce qu'on va faire? On tape sur internet, sur Google.
Rebel Show et ouais, Rebel Show 9-7. Et voilà, c'est pour parler aussi de toute la commu des 9-7.
Okay. Nous, il y a un super groupe qui s'appelle PLL.
Ouais.
On a collaboré avec récemment avec un de mes artistes. Et,
PLL.
PLL, ouais.
ouais. Faut pas le dire trop vite. Ouais. Très vite. PNL, PLL, pardon.
Ah. PLL, ouais.
Maya l'abeille. Et j'allais dire Madagascar, mais on n'est pas dedans. Mais moi, je travaille beaucoup avec des compositeurs qui sont basés soit à La Réunion, soit à Madagascar. Et je voulais dire que même si on est des labels implantés ici, c'est bien aussi de s'ouvrir. Et moi, quand on m'envoie des prods et que les mecs sont talentueux et qu'ils me disent « j'ai envie de prodder pour ton artiste », en ce moment, je bosse vraiment beaucoup avec Madagascar et La Réunion. Et ben, on les prend, on est content et on les paye et on leur fait leurs contrats et leurs éditions. Et voilà, c'est cool de bosser aussi avec des gens qui sont pas forcément... en métropole.
Allez, pour terminer, juste avant les recommandations, on a cité quand même pas mal de structures, il y en a beaucoup. Est-ce que vous voulez en mettre une dernière en avant, soit ensemble, soit chacun, je sais pas, une structure qu'on n'a pas citée et
une
vous dites,
de structure.
Ça vaut le coup.
J'allais dire Fédérap.
Ah, Fédérap, on en a parlé. Peut-être que vous en avez pas, hein. Peut-être si. Qu'on a dit, ouais.
Si, là, on parlait de CD. Il y a la SDRM, la petite sœur de la SACEM, okay. où pour fabriquer du physique, vous devez payer en tout cas, toquer à la SDRM, vous allez voir, il y a plein de choses encore dedans.
Okay. Pour le physique, moi, du coup, je voudrais dire la scène indépendante parce que j'y travaille et qu'il y a aussi un syndicat, du coup, des entrepreneurs de spectacles, donc les personnes qui produisent, diffusent et accueillent des spectacles, salles, festivals, etc., qui fait aussi un travail sur l'indépendance, dans le spectacle vivant, et c'est un des nombreux acteurs syndicaux aujourd'hui qui existent et qui permet à l'industrie de se structurer, d'évoluer et de travailler dans les meilleures conditions. Donc voilà, j'ai trouvé.
Valou, toi, il y a une structure que tu as envie de mettre en avant
Moi, j'en ai plus là.
C'est vrai. Mmh. On a parlé quand même des principales un peu.
Ça s'arrête quand même, hein.
Ouais, oui, il y a un autre sujet. Il y a un autre sujet. Bon, je le dis, mais on peut pas le développer malheureusement. Mais par exemple, on aurait pu parler aussi du financement de ces modèles. Parce que le financement de la SACEM, c'est pas le même que le CNM. Typiquement, le financement du CNM est prêt à débat et est très politique et problématique même. Bon, on en reparlera.
On pourra faire un autre épisode.
Ouais,
c'est
exactement.
C'est vous qui viendrez dans mon Twitch.
Bah écoute, pourquoi pas. Écoute, avec plaisir. Avec plaisir. Les recommandations. Est-ce que vous avez un morceau, soit un de vos classiques, soit un truc que vous avez découvert récemment, peu importe, quelque chose, vous avez envie de le partager avec nos auditeurs et nos viewers
En audio.
Et on s'écoute un extrait. Ouais, on s'écoute un extrait. On se met une minute trente du morceau.
Oui.
Ah, Valou, elle l'a déjà. Vas-y, Valou.
Vas-y, Valou.
Bah oui, moi, ça va être une de mes dernières productions.
Ouais.
C'est un artiste d'origine haïtienne que j'ai signé dans mon label il y a environ 3 ans. Je l'ai signé d'abord en tant que compositeur, donc en édition, et ensuite en tant qu'artiste. Parce, okay. Parce qu'il s'est trouvé qu'il avait une voix incroyable. Et aujourd'hui, il travaille, il fait ce qu'on appelle de la mélo, afro-mélo. Ils aiment bien ce terme mélo, là, depuis que Tiakola l'a lancé. Donc, il s'appelle Wensley. Le titre, c'est Chou Daddy. Et en fait, c'est, j'aime beaucoup parce que ça mélange beaucoup d'influences. Aussi bien. Alors là, pour le coup, on n'entend pas trop de compas, mais il fait aussi des titres où il fait que du compas, qui est la musique, donc, qui vient d'Haïti. Et, voilà. Il est compositeur, auteur, interprète. Et pour moi, c'est un super artiste. Il est batteur aussi. Il a commencé à l'église, un peu dans le modèle des Afro-Américains, des Beyoncé, okay. etc. Donc voilà, ça s'appelle Chou Daddy et ça vient de sortir.
Et ben, bah, Wensley, Chou Daddy, on s'écoute un extrait.
Limite à un gros bébé, toujours bien accompagné. J'ai le mail pour t'attraper, oh bébé. On va voyager cette année, Dubaï ou Monaco, bébé. Elle aime quand c'est chaud, elle aime quand c'est autant. Coco, j'apprécie ton Chanel Coco. Dans tes messages, y'en a beaucoup qui gênent. Y'en a beaucoup qui gênent. Un poco, tu vas vite et j'aime beaucoup. Tu fais ça bien, j'oublie tes fautes, tu le sais. Chaud, chaud, c'est chaud, quand c'est chaud, quand c'est chaud. Elle aime quand c'est chaud. Chaud, chaud, c'est chaud, quand c'est chaud, quand c'est chaud. Elle aime quand c'est chaud. J'apprécie ton Chanel Coco.
Allez, Leïla ou Andy, qui veut prendre la suite?
Bah, c'est vrai que mon voyage en Guyane cette année m'a un peu marqué quand même.
Okay.
Et surtout que Andy m'a introduit à beaucoup de personnes, dont des artistes. Et j'ai rencontré donc Elgena, qui est un artiste de dancehall guyanais. Et il a sorti un très beau clip d'un son qui s'appelle Patty. Et il a notamment gagné... en Guyane, il y a une cérémonie de récompense comme les Victoires de la Musique ou les Flammes, qui s'appelle les Lindor. Et du coup, il a gagné un Lindor cette année pour le clip de cette chanson.
Okay.
Donc, c'est cool aussi de savoir qu'il y a d'autres cérémonies qui récompensent les artistes qui ne sont pas récompensés ici en France hexagonale. Donc, félicitations à lui. Et ouais, j'aime bien cette musique.
On va s'écouter ça.
Carrément, mon parabé, comment nous t'es fait autrement? Mon trop jeune pour une femme, Bini Marémo. À la mof, la demoiselle est bien cassé, moi. Qu'est-ce que mon caché, chef, comparément? Tout problème, toujours caché à pédimo. Assez top, tout ton friend pour y'aura imo. Tout ça, mon carba, y pas assez photo. Mais un dette, mon qui gagne souci. Quand si y'a pour le mal, m'aura pour plaisir. Donc, t'as vraiment créé ça, la vie, m'a choisi. Fais la guerre qui est forme du lundi au lundi. Tout le monde t'a chiché, roule la vie, roule stabilité, roule la vie de famille. Mais à pas que moi, ça la vie a qui est construit. Pour les mots péter, les plans vont même partir.
Oh mon frère, maintenant j'ai plus rien à perdre. Y'a plus de retour en arrière. Je l'ai déjà fait, ben je peux le refaire. Oh, oh mon frère, maintenant j'ai plus rien à perdre. Y'a plus de retour en arrière. Je l'ai déjà fait, ben je peux le refaire. Oh mon gun, mon palais, perdu mon time. Pas speed si je de l'amour à cry. Peut-être demain mon pays smile. Mon pagué la faux braille, mon oko. Certains mon kéli, mon pagué de chaud. Mon kézot pas au fond pièce roulation.
Moi qui saute pas au fond pièce ou la sur.
Mais un dead mon qui gagne souci. Quand si y'a pour le mal, mon rap en plaisir. Donc t'as vraiment créé à ça la vie, mon choisi.
El Jenna.
Ça ressemble à Jules un peu au niveau des top lines un peu.
Ah, tu trouves un peu? Ouais, y a un truc, ah, pourquoi pas, pourquoi pas.
On dit pas non. Bah ouais, franchement, c'est, on a connu pire comme succès commercial. C'est ce qu'on lui souhaite en tout cas.
Écoute. Yes. Andy.
Et pour finir, je pense en beauté.
Ah, pour finir, il y aura Daz et moi aussi. Hein.
Ah mince. pour finir en beauté, les musiques des invités. J'essaie de me rattraper. l'album de Bambi, son intro, Bœuf d'Ambois. Donc, hommage à Mancérotte, une culture, une grande dame de la culture guyanaise, qui est la musique traditionnelle, le kaseko. Elle a fait remix, enfin, tout ce qu'on a parlé, elle a pris des sonorités, tac, tac, il n'y a aucun sampling. Pardon, il y a du sampling, mais avec autorisation des droits d'auteur. Donc, elle a repris, une chanson emblématique de la Guyane, qu'elle a remixée au goût du jour.
Et ben, c'est parti.
Isso, meu frère, mais dans bois, les manger mou. Isso, meu frère, mais dans bois, les manger mou. Ma santé, qui t'a montré, et dans bois, y'a tout enragé. Isso, meu frère, mais dans bois, les manger mou. Ma santé,
trop bien. Dame, c'est le sample, donc c'est la voix originale de cette dame-là, Mancérotte, et Bambi a fait un travail d'arrangement, d'instrumental.
Super, voilà. Très 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 bien. Il y a un gros côté à ma piano.
Exactement.
Avec le drum et tout.
Ouais, c'est pour montrer aussi que l'Amérique du Sud, la Guyane, a aussi ces mêmes sonorités-là que l'Afrique. Mmh. Voilà, c'était une dédicace.
Daz.
Oh là là, j'hésite. Écoute, on a reçu Nick Fury notamment la dernière fois, oui. Et t'écoutais un morceau avec
un Grand Bazar. Ah, tu mets ça, il est bien en vrai.
Chambé, hein, ouais. Ça s'appelle Purple Rouge.
Allez.
Donc c'est La Caution et Grand Bazar, des beatmakers suisses, il me semble. Et c'est très chouette.
Et je suis bien d'accord. C'est vrai qu'on l'avait pas passé pendant l'émission.
Ouais, vraiment cool.
Effectivement, merci à Ahmed qui était venu la dernière fois. Allez, let's go.
Yo, Grand Bazar, N-I-2-K-F-U-R-I-E, Nick Fury, La Caution.
The Grand Bazar.
J'vis la vie en purple rouge, beaucoup font les kills pour le flouze.
La loose dans le cœur, en terrasse, café, quelle belle loose.
Amour propre devient haine sale, le sang et le seum font le tour. Macron et le Trump dans le crump aux news.
Bleu, blanc,
chevaux de guerre et patron. Toujours prompt, saut course, à cran, face à franche. Fais un brunch chez le couze. Tom, Tom, exigu, crépite un vinyle de tente, que le tout. Ambiance d'ouest, canal de Suez, fève et feul. Et qu'importe ce que la toile dise. Sur les réseaux, j'vois le fil et j'tombe poil pile sur Gloireville, interminable comme One Piece. J'porte le poids de ville où des quads circulent. Trois de flics au même bois de fil. On fait pas le
mec. 5 et 10 heures, faudra composer avec nous en boucle synthétiseur.
Faut jeter, ne parle que de nous. Laisse le pic dans ton vestiaire. Avec ton rap de tir au flanc, je kick dans une caisse claire. Banal avec un gyrophare. Mec, synthétiseur. Faudra composer avec nous en boucle au synthétiseur. Faut jeter, ne parle que de nous. Laisse le pic dans ton vestiaire. Avec ton rap de tir au flanc, je kick dans une caisse claire. Banal avec un gyrophare. J'ai un arrêt sans arrêt. Mes phrases paraissent sans carré et calme. Paraissent sans j'balais tes phases. Pas de raison d'arrêt.
Franchement, la vibe est trop cool. Ouais. Et ça fait une éternité que j'avais pas entendu quelqu'un dire tir au flanc dans un texte. Et j'étais en mode ah, c'est marrant.
Bon, ils ont toujours eu des paroles, des sons complètement improbables à quoi.
Ouais, franchement, non, là, l'instru est cool et la vibe est vraiment chouette.
Ouais, elle est complètement dans ta vibe. L'instru, c'est complètement dans le truc américain.
C'est 100% des trucs que j'écoute, ouais, ouais. Donc,
On n'est pas dans du drumless, mais pas loin. Super répétitif.
Ouais, ouais, sample pitché et tout. Ça fait plaisir.
Très bien. Bon, écoute, je termine.
Allez. Avec... Un truc expérimental.
Non, pas expérimental, mais du piano solo, de la musique classique, histoire de varier un peu, tu vois. Et c'est un Canadien qui s'appelle Marc-André Hamelin, peut-être que tu connais, qui est un peu exposé médiatiquement. Il a fait notamment un Tiny Desk il y a pas très très longtemps.
Ah, voilà.
Et il joue un morceau dans ce Tiny Desk que je connaissais pas du tout, d'un compositeur américain qui s'appelle William Bolcom. Et j'ai trouvé cette composition magnifique. Et donc je me suis dit, celle-là, c'est la version en l'occurrence interprétée par Marc-André Hamelin. Et voilà, c'est juste beau. Ça s'appelle Free Ghost Rags. Rags, car c'est du ragtime. Et, et voilà, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Plutôt bien composé.
Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est vraiment très éclectique cette émission.
C'est beau, hein.
Ouais, maintenant, on réveille pas mal en douceur. Et
d'ailleurs, je précise, parce que je sais pas si on peut parler de mouvement, mais en fait, Free Ghost Rags, là, il y a trois morceaux. Là, c'était le numéro 1, Graceful Ghost Rag. Voilà. Bref.
Bravo, bravo, Salman.
Moi, ça me faisait penser à.
Ah oui?
Oui, ça me faisait penser à l'hiver. Et ça me faisait penser à de la neige. Et à, tu sais. Déambuler dehors avec beaucoup de neige.
Ah, tu voyais l'hiver, toi, dans ce...
Ouais, je voyais l'hiver, je voyais la neige, je voyais des maisons avec des feux de cheminée à l'intérieur, à travers la fenêtre. Enfin, après, chacun...
Ouais, c'est marrant.
C'est
ouais.
La musique, ça éveille des émotions et puis ça éveille plein de choses différentes. Bon, moi, ça m'a...
Moi, c'était plutôt Martini et Mitrailleuse Thompson.
Comme quoi.
Tu te voyais à l'époque de la...
Chicago.
Chicago. C'est un peu moins poétique que ce que racontait Valou, désolé, hein, mec.
Ouais, ça, faut voyais Charlie Chaplin ou.
Oui, bah ouais, côté ragtime
à fond. Ouais, je voyais vraiment un film en noir et blanc.
En noir et blanc avec le chapeau.
Ouais.
Avec une mitrailleuse et de la neige.
Comme ça. Bon, là, il a au courant, on en a
tué. Je voyais vraiment un mec qui faisait du piano,
quoi. Très terre à terre. Bon, encore merci, Valou, Leïla Bello, Andy Badami.
Merci beaucoup pour ce que vous faites aussi.
Merci beaucoup. Ça fait plaisir.
Merci à Monte le son, le podcast.
Et ben, on essaye de faire des choses intéressantes. Parce qu'on y arrive à chaque fois.
À chaque fois, je suis frustré.
Là, je sais pas.
Parce qu'on pourrait
continuer. Oui, mais Daz, on se retrouve dans 15 jours.
Bah ouais, mais on parlera plus de ça, on parlera d'autre chose. Alors, ça sera bien.
Mais ce sera hyper bien aussi, c'est sûr.
Ouais.
On en profite quand même. On remercie François, évidemment, pour le montage.
Bon courage.
On remercie la team Bouclette, Flav, Iris.
Bon courage.
Thomas évidemment avec qui
merci Thomas, j'ai cette... encore un studio à équiper.
Pour la Guyane aussi ce serait pas mal. Y a
pareil
pas mal
pour Andy.
Bah, vous connaissez Thomas, vous achetez régulièrement chez Thomas.
Tout à fait.
Oui. Qui ne le fait pas, c'est ça la question.
Il livre en Guyane, Thomas?
À confirmer, mais je crois. Mais je crois, si je peux avoir la question, c'est vraiment
c'est les gouttes, quoi.
Ouais, ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien.
Bon, et puis, merci à vous, évidemment. Merci Daz.
Ouais, merci Salman.
On se retrouve, dans 15 jours. Pas de pause, cet hiver, de vacances, etc. On sera là, on sera là le 31, même, tu vois, juste avant le premier.
Ok. C'est ça.
Si tout va bien.
Ouais.
Pas en direct, nous on sera en vacances.
Oui, voilà, c'est ça.
Les gens auront un épisode.
Oui, pas de break. Ok. Donc je te dis pas à l'année prochaine, je te dis à tout à l'heure, quoi.
Ouais, oui, absolument. Allez, à dans 15 jours.
À bientôt.